Merci.
Alors, le cours est dédié à l'Eilui Nishmata de Eliaou Ben Sara.
Amen.
Et il y a aussi de mon père Avraham Shimon Ben Simcha, que j'ai élève dans des Shabbat parmi les Tzadikim d'Israël. Et aussi de Benjamin.
Ben Esther Georgia.
Ben Esther Georgia.
Amen. Yosef Ben Giulia.
Et Yosef Ben Giulia.
Amen. Et Zion Armando Ben Elisa.
Et Zion Armando Ben Elisa.
Amen. Amen.
Alors il y a un midrash. Il y a un midrash incroyable. Le midrash lui-même est incroyable. Et les circonstances du midrash aussi, c'est-à-dire de la redécouverte de ce midrash, là, il est incroyable. Je vais juste vous raconter les circonstances, comme ça vous allez comprendre comment est-ce que ce cours il est sorti. C'est que j'étais en train d'écrire le deuxième livre au HM, j'ai fini le livre. Et dans le passage, j'étais dans le passage sur le temps. On a fait déjà un petit peu ce cours ici. C'est un cours très très riche, très profond. Et il manquait une finalité. Je sentais, on a travaillé beaucoup, beaucoup. C'est un cours qui dure 2 heures. Mais par écrit, il fait 75 pages. 75 pages, quand il n'y a pas de blague et qu'il n'y a que des chidushim, c'est beaucoup. Ça fait à peu près 2 livres chez les goyim, d'accord? Donc maintenant, j'arrivais à la fin de ce passage-là, et je devais faire un cours à Lyon. Et j'arrive le matin à Lyon pour faire le cours, et puis je relis le cours avant de faire. Et quand je relis le cours, comme ce cours est très long, et c'est un cours qui n'a aucun rapport, c'est un cours sur l'Eshtadlout, sur la part de l'homme, l'effort que doit fournir l'homme par rapport à l'effort que Dieu fournit, la complémentarité entre le besoin de l'homme et le besoin de Dieu. Bon, c'est un cours qui n'a aucun rapport. Mais à la fin de ce cours, il y a un midrash. Et ce midrash, jamais je le lisais. Parce que comme le cours était très très long, donc j'arrivais jamais à la fin. Et donc je faisais jamais ce midrash. Mais ce midrash-là, je l'ai écrit là-bas en 97. Ça va un petit peu longtemps. Et quand j'ai relu le cours, juste avant de faire le shiur, j'ai relu le cours, j'ai vu ce midrash. Et ça m'a tapé un coup de douche parce que justement j'étais en train de préparer le cours sur le temps et c'était j'avais besoin de cette notion là. Donc du coup j'ai changé le plan complètement du cours et j'ai refait un cours à partir de ce cours là. Et après le cours, c'était un lundi matin à Lyon. Après le mardi soir à Paris, j'ai refait un plan, j'ai refait le cours. Après le jeudi à Marseille, j'ai refait le cours. Après ce cours, il a fait des bébés et il a terminé le passage sur le temps et c'est la finalité de ce passage. Alors j'ai dit, c'est quand même intéressant qu'un cours, qui est un passage du livre qui est sur le temps, et il avait besoin d'un midrash qui est sur le temps, et qu'il est venu en son temps. Parce que pendant, ça fait combien de 97 à 2009, ça fait combien?
12 ans.
Pendant 12 ans, ce midrash il dormait dans mes feuilles, et je l'ai promené, il a fait des milliers de kilomètres. Mais il est sorti au moment où il a besoin. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que le temps, il se présente au moment où tu en as besoin. Ça veut dire quoi, le présent réel, ce qu'on appelle le présent réel. Vive au présent réel. C'est ça, le présent instantané. Et justement, le Midrash, il parle de ça. Pourquoi? Alors écoutez, ce Midrash, il est incroyable. Là-bas, c'est marqué, bon, tout le monde connaît le passage, que quand Yitzhak, il a voulu bénir Esav. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son fils Esav, va chasser, ramène-moi du gibier, prépare-moi à manger que j'aime, et je vais te bénir. Rivka, elle a entendu ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Yaakov, écoute, ton père, il veut bénir Esav. Va vite, toi. Va mettre les habits de Esav. Et va prendre 2 chevreaux. Je vais les préparer. On va les cuisiner comme ton père, il aime. Et tu vas prendre la bracha à la place de ton frère. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, le Midrash, il dit qu'au moment où Yaakov, qui se faisait passer pour Esav, il est rentré dans la tente pour recevoir la bracha de Yitzhak, alors, il s'est passé une chose bizarre. C'est que Yitzhak, il sait qu'il a envoyé Esav. D'accord? Maintenant, pour partir, c'est très bien, pour aller à la chasse, ça prend disons 1h30. Après, sur place, ça prend encore 1h pour attraper. Après, 1h30 pour revenir. Ça fait déjà 4h. Plus 1h pour préparer. Ça fait 5h. Mais il a vu qu'il est revenu tout de suite. Il est venu très vite. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a été juste dans le troupeau, juste à côté, il a pris 2 chevreaux. Il les a cuisinés en 1h, il les a préparés. Alors Yitzhak, il a eu un étonnement. Il a dit, « Ma miarta béni. Comment ça se fait que tu as fait tellement vite? Comment ça se fait que tu as fait tellement vite? » Alors il a répondu, Yaakov, il a dit une chose incroyable. Il a dit qu'il craint les fanaï à Hachem Elokecha. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il a présenté devant moi. Ça veut dire, sous-entendu, Mina Shamaïm, j'ai été à la chasse et j'ai trouvé tout de suite le gibier et j'ai pu le préparer et je te l'ai amené. Voilà, ça c'est ce qui est écrit dans le Midrash. D'accord. Alors là-dessus, c'est ce qui est écrit dans le Passouk. Là-dessus, il y a une marloquette, une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette réponse que Yaakov il a donnée à Yitzhak? Alors écoutez un peu ce qu'il dit. Il dit voilà. Rabbi Yochanan dit voilà, en fait c'est un raisonnement de Kal Vachomer à plus forte raison. Il dit rappelle-toi, toi, Yitzhak, quand tu étais sur l'autel, c'est très bien quand Abraham, Hachem il a ordonné à Abraham d'offrir son fils Yitzhak en corban sur le Misbéa. Donc il a mis le bois, il a mis le feu, il a mis pour le tuer. Et au moment où il allait le faire, il y en a qui disent qu'il a carrément commencé à trancher. Il y en a qui disent qu'il est carrément mort, qu'il est mort. Il est monté, il est revenu, Mitratametim, oui, il y en a qui disent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit stop, arrête. Arrête. Au moment même, il était en train de faire, Hachem, il a dit arrête. Alors, on avait expliqué ici, même à Milan, on avait dit que... Pourquoi dans le pasouk, c'est il lui a dit deux fois d'arrêter? Ouais, parce qu'il a dit Altishlach yadechanana, n'envoie pas ta main sur l'enfant, ve alta aslomeuma, ne lui fait rien. Alors pourquoi il a répété deux fois? Alors Rachid Abbas, il explique sur place. Parce que quand Hachem lui a dit arrête, ouais, alors Abraham, il a dit bon, il a dit au moins je lui fais une blessure, au moins je lui ouvre la gorge, au moins je fais couler un peu de sang. Il a dit pourquoi? Il dit Rachid, c'est un midrash, il dit quoi, les chinam batidekan? Est-ce que je suis venu ici pour rien? Donc il a fallu qu'il répète, ne lui fais rien, Alta Somliuma, ne lui fais rien, Rachid Alta Solomou, ne lui fais pas de défaut, pour qu'il ne le touche pas. Alors nous, on ne comprend pas. Je ne comprends pas. Maintenant, Abraham, il a un problème. C'est qu'Hachem lui a ordonné de tuer son fils. Au dernier moment, Hachem lui dit, ne le tue pas. Donc normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Ouf, grâce à Dieu. Ouais, on n'a pas besoin de passer par cette épreuve. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Dommage! Je suis venu pour rien. Mais comment tu es venu pour rien? C'est comme si quelqu'un... Il a un gros soupçon qu'il a une grave maladie. À la fin, on voit qu'il a rien. Il dit, oh, haval, dommage. L'autre, il a deux doigts du divorce. Ouais, on lui sauve son couple. Il dit, oh, pour une fois qu'il allait se passer quelque chose dans ma vie. Comment? Celui-là, il a échappé à un grave accident. Il dit, oh, j'allais toucher l'assurance vie. Mais en tant que mort. Ouais. Comment ça se fait que nous, quand on a un problème, on est pressé d'avoir la solution, oui. Et qu'Abraham, quand on lui a proposé la solution, il regrettait le problème. C'est bizarre. Alors, je viens à grand rigouche. En vérité, dans la vie, il y a trois grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape du brel. Le brel. Brel. Pas le braille. Bien que le brel, souvent il braille. Au début, on ne comprend pas. Les choses, on ne comprend pas. On ne se rend pas compte. Après, on se rend compte, mais on se rebelle. C'est pas normal, comme ça se fait, c'est pas... Et après, on comprend que ce n'était pas pour rien. Alors, je donne un exemple. Imagine que ton enfant, il est dans une école. Bon, moi je dis cet exemple au hasard. C'est un exemple qui m'est arrivé. Comme ça, moi je suis sûr qu'il existait. Dans une école. Et toi, tu t'es battu pour qu'il rentre dans cette école. Il faut qu'il rentre dans cette école. Et c'est une bonne école, super. Manque de chance, il est tombé sur un professeur dans une bonne école qui est fou. Il est tombé dans la classe du fou. Et ce professeur ne peut pas avoir cet enfant. Et tous les jours, il le massacre. Et il vient chez toi en pleurant. Et tu lui dis, c'est une bonne école, arrête de parler sur le professeur. Et tu te bats. Et non seulement que le professeur, il n'aime pas ton fils, mais en plus, il monte l'école contre ton fils. Et maintenant, il dit, maintenant, ton fils va être renvoyé de l'école. Et toi, tu es une ramasse, tu angoisses, tu t'énerves, mais pourquoi? Et tu vas, et tu pleures, et tu écris des lettres, et tu avales 2 litres d'huile, tu mets une mèche, tu deviens une veilleuse. Tu sais plus quoi faire pour essayer. Et à la fin, il n'y a pas, tu t'en vas. Et tu te révoltes, et comment ça se fait, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, comment ça se fait? Halet al-Denia, c'est terminé. Et à la fin, tu cherches une école, et tu trouves une école, et tu le mets dans cette école. Et ton école, l'enfant dans la première école, il était mal, il était stressé, il était angoissé, il se mangeait les ongles, il est arrivé presque au coude, ouais. Et là, tu le mets dans la nouvelle école, il est bien, il s'épanouit, il devient extraordinaire. Génial, alors je comprends. Pendant des années, j'ai cru qu'il était bien, tu dormais, comme un vrai. Après, on t'a dit qu'on va le renvoyer, tu t'es révolté, c'est pas normal. Après, t'as dit, mais c'est une bracha qu'on l'a renvoyé. Parce que moi, jamais je l'aurais mis dans cette école. C'est seulement parce qu'on l'a renvoyé. C'est-à-dire, la seule manière de le faire changer d'école, c'était qu'eux, ils le renvoient. Parce que toi, tu aurais donné un bras pour qu'ils le gardent. La vie, c'est comme ça. Première étape, tu ne comprends pas. Tu vois rien. Ouais. Deuxième étape, tu te rends compte, tu t'énerves, tu te révoltes. Oui, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi j'ai perdu l'argent? Pourquoi j'ai fait ça? Après, tu vois que les choses, finalement, elles étaient nécessaires. Attention. Parce que toute la vie, c'est comme ça. Ça, on dit cet exemple. Les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte. Alors comment ça s'est passé? Normalement, ils devaient rentrer en Israël. C'était facile l'histoire. Ils sortent d'Égypte, ils passent un moment dans le désert, ça devait durer 3 jours de marche. Après, ils arrivaient directement en Israël, ils recevaient la Torah. Extraordinaire. Manque de chance, vous connaissez l'histoire. Alors, il y a eu la faute du veau d'or, et il y a eu la faute des explorateurs. Alors Hachem s'est mis en colère. Comment? Vous avez dit que la terre que je vous donnais, vous ne l'avez pas aimée. Alors c'est comme ça, vous êtes condamné à mort, et tout le monde va rester dans le désert pendant 40 ans. Ça va? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, de vous à moi. On est entre nous, d'accord? Les Béné Israël n'étaient pas prêts à rentrer en Israël. Ils n'étaient pas prêts. C'est, vous savez que en Israël, les Juifs, il faut le savoir, à l'époque, les Béné Israël, ils ne faisaient pas le Shabbat. Vous êtes au courant? Ils ne faisaient pas la Patria. Ils étaient assimilés. Ils ne faisaient rien. Le Midrash dit que les Béné Israël étaient sauvés parce qu'ils ont gardé leur nom juif, leur langue juive et leurs habits juifs. Alors les gens, ils disent, tu te rends compte, en Égypte, ils ont gardé leurs habits juifs, ils ont gardé leur langue juive, et ils ont gardé leur nom juif. Tu n'as pas compris. Si on t'a dit qu'ils ont gardé ces trois choses, ça veut dire que tout le reste, ils l'ont laissé tomber. À tel point que quand ils sont sortis d'Égypte, et que Hachem, il a massacré les Égyptiens dans la mer, et que les Israélites étaient en train de se réjouir, alors les anges, ils ont dit... Il a dit, mais pourquoi eux ils sont morts et eux ils sont vivants? Alléluia, Avda Avda Zara, mais Alléluia, Avda Avda Zara. C'est que même les Juifs qui sont sortis d'Égypte, je ne te parle même pas des autres qui sont morts en Égypte, même ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était des gens qui faisaient Avda Zara. Donc en vérité, ils n'étaient pas prêts à rentrer en Israël. Ils n'étaient pas prêts. Ils avaient besoin de quoi? D'un stage de formation pour formater toute une génération que pendant 40 ans, ils vont étudier la Torah toute la journée, ils vont recevoir la manne, mais la chaman, ils vont comprendre qui c'est qui les nourrit. Et ils vont être protégés par les ananas et carottes, par les nuées de protection. Et maintenant qu'elle a été formée, cette génération, alors ils peuvent rentrer en Israël. Ça va? Ça veut dire que même si les Bnei Israël n'avaient pas fait la faute du Hegel, et la faute des miracles, la faute des explorateurs, il fallait qu'ils restent des chiffres dans le désert. Comme dans la vie d'un individu. Pourquoi est-ce qu'un homme, un enfant, il ne devient pas directement un adulte? Il doit passer par... par le désert, il doit passer par l'adolescence. C'est nécessaire. Alors, encore une fois, l'adolescence, c'est quoi? Tu comprends rien. Après, numéro 2, tu te révoltes. La révolte de l'adolescence, c'est connu, la crise d'adolescence. Et après, tu te réconcilies. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque que moi, j'ai toujours peur quand les gens me disent, je leur dis, comment ça a été la crise d'adolescence? Ils me disent, ah non, pas du tout. Pas au HM, comme... Aucun problème. Aucun problème. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore passée, la crise. Elle va venir. Oui. Pour ça, je vous dis qu'un homme, il a deux grandes crises dans sa vie. 14-18 et 39-45. Oui. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, ça marche plus 18. C'est plus 14-18. Maintenant, c'est 14-22 parce qu'il faut rajouter les 5-6 ans de PlayStation qui décalent la maturité. Donc, les 45 aussi, ça décale un petit peu. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle va avoir une crise. Et cette crise, elle est nécessaire. Le Rav de Brisk, il disait... À propos de la crise du jeune, il disait, plus la blessure est profonde et plus la cicatrice est solide. Il faut la crise. Il faut la crise. J'ai dit, non, c'est la crise. Alors les enfants de religieux, ils ne veulent pas être religieux. Les enfants de pas religieux, ils veulent être religieux. C'est difficile pour les parents. Ouais. Comment mais... Ouais, reprends un petit peu de tes connelles de cochon. Oh non, je veux manger caché, hein, je veux étudier la Torah. Oh mais il est fou. Il est fou, mais qu'est-ce qui arrive dans cette maison? Allez, Christine, viens, on va faire vérifier les mezouzot. C'est là qu'il se rappelle qu'il n'a pas de mezouzot. D'accord, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il voit qu'il y a un malaise, il y a une peur. Alors, c'est bizarre. Pourquoi celui-là, qui a des enfants, qui est complètement assimilé, mais debout, milé, mais complètement? Il a des enfants, tu les vois, des hassidines. Et l'autre, le pauvre, qui est un hassid, il a des enfants que... Hassan. D'accord? Comment ça se fait? Tu vois, chacun, il fait sa révolution dans un sens et dans l'autre. Et pourtant, dans les deux cas, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Alors, tu ne sais pas celui-là qui était complètement assimilé, qui a fait une révolution de Hassid, tu ne sais pas comment il va se terminer. Comprenez ou non? Peut-être qu'il va fumer des pétards après avec la barbe et le chapeau, tu ne sais pas. L'autre côté, tu vois celui-là qui était Hassid et qui s'est mis à faire des bêtises, et tu ne sais pas comment il va se terminer. Peut-être qu'il va être en scolaire. Comprenez? Il saura parler mal, tu vois, parce que justement, il a connu ce monde. Alors, comment tu veux savoir? Donc encore une fois, c'est trois étapes. Première étape, tu ne comprends pas. T'es nia, tu dors. Deuxième étape, tu te révoltes. Ah, oh, ça c'est comme quelqu'un, tu te réveilles. Pourquoi tu me réveilles? Eh bien des fois, la vie, elle te réveille. Alors ça t'énerve. Des fois, c'est ton fils qui te réveille. Des fois, c'est ta femme qui te réveille. Tu m'énerves !
J'ai dit la lettre d'avocat.
On peut parler ? Vu que nous sommes en communauté, pour le partage des biens, donc on va peut-être essayer de s'arranger. Sinon, ça va me coûter une barre. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'une personne comprend que dans la vie, numéro 1, on ne comprend pas. Numéro 2, on se révolte. Numéro 3, on comprend que c'était nécessaire. Le problème, c'est le temps qu'on met à comprendre que c'était nécessaire. Et quand on a la tête très dure et la nuque très raide, on a du mal à faire comme ça. Nous, on regarde devant ou on regarde l'autre. On regarde son mari, c'est ça, c'est pas, ou on dit c'est à cause de l'autre. Jamais on dit c'est à cause de moi hier. C'est difficile. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Que Hachem, il a demandé.
Avram avait dit d'amener son fils.
Et Avram, il a accepté. Et au dernier moment, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, ne le donne pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, dommage. Il dit, comment c'est dommage ? Alors, il a dit, je suis d'accord à une condition. Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un miracle. Et qui s'est marqué là-bas ? Vaïssa Avram et Enav, Veiné Aïl. Il a levé les yeux, ouais, et il a vu un bélier. Et ce bélier, il avait les cornes qui étaient prises dans le buisson. Alors, il était préparé. En vérité, il était préparé là-bas. Il dit, avant la création du monde, à cause de beaucoup, il avait déjà préparé ce bélier pour Avram. Maintenant, c'est quoi cette logique-là ? Qu'il y a un bélier qui vient à la place. À tel point qu'Avram, il a fait comme un espèce de contrat. Il a fait un deal avec Hachem. Il a dit, j'accepte de mettre le bélier à la place de Yitzhak, mais à une condition. C'est que tout ce que je vais faire sur le bélier, ça soit considéré comme si je l'ai fait sur Israël. Comme celle du Midrash. Donc il a fait la shrita, il a pensé à Israël. Il a enlevé la peau, il a pensé à Israël. Il a coupé en morceaux, il a pensé à Israël. Il l'a mis sur l'autel, il a pensé à Israël. Il a brûlé, il a pensé à Israël. Tout pour Israël. À tel point que le Midrash dit que les cendres de Israël, elles sont sur l'autel. Sur le Mizbéar. Tu dis, Maval, on sait très bien que c'était pas Israël. D'accord ? Botaï, c'est un chidouche énorme. Ça veut dire que la kavana chez Avraham Avinu, elle est tellement forte qu'il n'a pas besoin de l'acte. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand, par exemple, nous, on dit en français, l'intention vaut l'action. Donc si moi, je cours pour faire la mitzvah et je ne la fais pas, je dis, mais je ne l'ai pas fait. Et je ne pourrai jamais savoir si tu l'as fait. Mais chez Avraham Avinu, la kavana, la pensée, et l'intention et l'acte, c'est la même chose. Donc Hachem, quand il a vu qu'il a mis sur l'autel, il a mis le bélier, pour Hachem, c'est comme s'il a mis le... Donc les cendres de Yitzhak, elles sont vraiment sûres. Ça va ? Tu dis, mais quel intérêt ? Alors je vous dis, parce qu'il savait très bien, Avraham Avinu, que c'était ou Yitzhak qui allait subir, ou le bélier qui allait subir. Il a dit, mais je suis d'accord de mettre le bélier, seulement à condition que ce soit comme si j'avais mis Yitzhak. On dit, quel intérêt ? Voyez ça s'appelle la vie.
Ça s'appelle ?
C'est ça la vie. La vie, c'est que des fois, Yitzhak, il est à côté de l'autel et des fois Yitzhak il est sur l'autel. Je ne vous cache pas qu'en 39-45, Yitzhak il était sur l'autel. Et on a brûlé Yitzhak. 6 millions de béliers on a brûlé. 6 millions. Il était sur l'autel. Et des fois il est à côté de l'autel. Et la catastrophe elle arrive. Par exemple, les commentaires ils disent que quand il y avait les expulsions des Juifs, ils étaient renvoyés d'Espagne, ils étaient renvoyés de partout, du Liban, de partout. Il dit pourquoi ? Parce que la galoute, elle est considérée comme une mort. Et c'est une capara. Parce que normalement, il y avait un décret de destruction sur Am Israël, mais Hachem, il a dit, je vous envoie en galoute à la place de la mort. C'est clair ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que des fois, dans la vie, il y a des béliers, des fois, il n'y en a pas. Maintenant, est-ce qu'on doit se réjouir qu'il y ait un bélier à ma place ? Ou je dois dire, oh, dommage ! Regardez souvent dans la vie, quand il y a une joie, elle est accompagnée d'une angoisse. Alors donc, est-ce qu'on dit capara ? Celui-là, sa femme, elle a accouché. Baruch Hashem, un beau bébé. Et là, il va pour dire à la fermière, bravo, Chazak ou Baruch. La femme, elle dit, vous savez, monsieur, l'enfant, il avait le cordon ombilical autour du cou. On est passé à côté d'une catastrophe. Mais vraiment, grâce à Dieu, votre enfant a été sauvé. Le type, il est content. Il prend sa voiture. Il va pour aller préparer la Brit Mila. Il casse la voiture. 34 000 euros à la poubelle. Parce que l'assurance, elle s'était terminée hier.
Ça arrive souvent.
Ça, ça a été développé par un très grand rabbin italien d'ailleurs, qui s'appelait Capara, très connu. Moshe de son prénom, chez Capara, très très connu, d'accord. Mais que quelqu'un y comprend qu'il y a le bien et il y a le mal. Alors en français, on appelle ça le prix à payer. Tu vois, ton enfant, il a été sauvé. Ouais. Et tu vois cette voiture. Là, voilà, là, c'est ça le bélier. Regarde le bélier, regarde-le.
Des fois, ils font un très beau mariage. Ils ont fait un mariage magnifique à Eilat. Ils ont invité tout le monde. Ils ont pris un hôtel prêt. Il a fait un truc énorme. Ouais. Le deuxième soir de Shavuot, Brachot, cambriolage à l'israélienne, la bombe endormante, 287 000 euros de bijoux. Zélé Omazé, ça vient à la place de ça, c'est comme ça. Ça s'appelle en français le prix à payer. Maintenant, le problème, c'est de savoir. Non. Non, on peut payer nous-mêmes. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vais vous dire un grand secret. Parce que comme c'est le dernier cours de l'année, je veux que vous ayez quelque chose à manger. J'ai compris ça cette année. Je comprends beaucoup de choses dans l'année, mais c'est ça que j'ai compris cette année. Moi, je croyais que ce qu'on avait, c'est ce qu'on avait. Alors qu'en fait, j'ai compris que ce qu'on a, c'est pas ce qu'on a. C'est ce qu'on a sacrifié pour l'avoir. Tu as le Shalom Bayit à la maison. C'est pas parce que tu as été gentil, tu as le Shalom Bayit. C'est les efforts que tu as sacrifiés pour l'avoir, c'est ça qui t'appartient. Tout le reste ne t'appartient pas. Tu as la Torah, c'est les efforts que tu as sacrifiés pour la Torah. Tu as la Parnassa, c'est les efforts que tu as sacrifiés pour la Parnassa. Parce que la Parnassa, c'est Dieu qui la donne. Mais par contre, les efforts que tu as fournis, ça c'est ta part à toi. C'est ça qu'elle t'appartient. C'est pour ça, je vous avais expliqué à l'époque, pour ça que les tables de la loi, elles étaient gravées. Harut à la Luchot. Ouais, gravées. Alors à l'époque, je vous avais posé la question. Quelle différence si tu prends une plaque de marbre avec un feutre qui ne s'efface pas et tu écris dessus? Ou quelle différence si tu graves à l'intérieur du marbre? Quelle différence entre graver et écrit? Tu dis, mais les deux, ça tient. On dit, non, mais quand c'est écrit, on peut frotter, on peut laver. Imagine, on a écrit avec une encre qui ne bougera pas. Quelle différence?
On a enlevé de soi.
Voilà. Parce que quand on grave, on a enlevé quelque chose. Maintenant, ce que tu as enlevé de toi pour ta femme, c'est la place de ta femme chez toi. Ce que tu as enlevé de ton amour propre pour la Torah, c'est la place de Dieu en toi. Ce que tu as enlevé de ta bêtise, c'est ça la place de l'intelligence. Ce que tu as enlevé de ta peur, c'est ça la place du courage. C'est seulement ce que tu as sacrifié. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu as sacrifié. C'est pas ce que tu as eu. Et la preuve, c'est qu'à la fin de la vie, on part avec rien. Or, qu'est-ce qui nous reste? Il reste ce qu'on a sacrifié. Pas ce qu'on a reçu. Parce que ce que tu as reçu, Baba, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, c'est chez toi. Demain, ça sera ailleurs. Quand tu achètes une belle maison, tu es content. Tu dis, ah, quelle belle maison. Dis-moi, mais le propriétaire qui habitait avant, il s'est dit la même chose. Le type, il y a 100 ans qu'il a construit, il a eu le même kiff. Et le mec, il y a 200 ans qui habitait sur le terrain, dans une cabane, il avait le même kiff. Donc tu vois bien que chacun, il a eu le même kiff et qu'il n'a rien eu. Donc qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait dans cette maison? Qu'est-ce que tu as fait dans cette maison? Si tu avais fait une maison pour frimer, pour dire à tes copains, regarde, ça c'est du marbre, ça c'est du truc, ça c'est de l'or, ça c'est... Bon, alors ça va t'impressionner trois brèles. Bon, c'est bien pour toi. Mais si tu dis, ici dans ce canapé, j'ai fait les Dvar Torah tous les Shabbat. Ici, j'ai éduqué mes enfants. Ici, dans ce lit, on a conçu ma femme, on a conçu les enfants avec ma femme, avec amour, avec crainte. Chaque endroit, il est kadosh maintenant. C'est marqué pour la vie. Et les gens qui vont venir dans cette maison, crois-moi, que ne vont pas ressentir la beauté des meubles. Ils vont ressentir la shekhina que tu as amenée dedans. Et la shekhina, c'est le fruit de ce que tu as produit par rapport à ce que tu as sacrifié. C'est ça ce que tu as. C'est tout ce que tu as dans la vie. En français, on appelle ça le prix à payer. C'est le prix à payer. Maintenant, des gens, ils sont prêts à payer. Il y en a, ils ne veulent pas payer. Ils veulent pas. Ils disent, ah non, pourquoi? Comme les enfants, ils disent, mais papa, il va payer. Alors, ils ne payent pas. C'est pour ça qu'ils ne grandissent pas. Oui ou non? Ah ben, au lieu de compter sur ton père, des fois, tu comptes sur ton père. Alors, Hachem, tu dis, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, et toi? Alors, bon. Alors, Dieu, il te dit, je vais faire une mitzvah, je vais aller au Lama pour toi, parce qu'il faut bien que tu fasses quelque chose. Ça s'appelle le prix à payer. Mais dans cette dimension-là, elle veut dire que dans la vie, il y aura toujours du bien et il y aura toujours du mal. Maintenant, il faut juste accepter que puisque Dieu fait le bien et le mal pour le bien, que le mal, c'est le prix à payer pour avoir le bien. Comme les pommes de terre. C'est impossible qu'un type, il aille dans un champ, il creuse la terre, il trouve une boîte en plastique, il l'ouvre et dedans, il y a des frites chaudes. Même en Belgique, c'est impossible. Comment non? Tu sais quoi? J'étais en plein milieu d'un champ, comme ça, à 4h30 du matin, il n'y avait personne. Je suis rentré, j'ai creusé, j'ai entendu tant, une boîte en fer. Je l'ai ouverte. J'ai senti une odeur, j'ai dit, Réargenede. J'ai ouvert une boîte de macrabé. Et il y avait des frites fumantes. Elles étaient fraîches, elles sortaient de la friteuse. Ça n'existe pas.
Il faut aller dans les champs, il faut creuser. Tu trouves des patates dégueulasses avec la terre.
Tu les emmènes. Tu les laves, tu les épluches, tu les coupes. Tu les cuis, tu les manges. C'est comme ça.
Donc celui qui trouve des patates toutes chaudes, frites...
Il est chez mec...
Exactement.
Ouais, il ne manque plus qu'à prendre le poisson. Comme ça, tout le monde pourra lui dire de qui je me fiche.
D'accord. Mais c'est quoi l'idée?
C'est que ça n'existe pas. Tu vois, tu vois un couple extraordinaire. Sache qu'ils ont pris dans la patate. Ils ont enlevé la terre, l'orgueil. Ils ont coupé les frites, ils ont cassé les midotes. Ils ont épluché leur bêtise et leur... Ouais, ils ont fait frire doucement, pour que ça arrive, que ces deux enfants, ce monsieur et cette femme, quand tu les vois, tu dis, ah, frite. D'accord? Tu vois qu'ils ont vraiment, ils sont devenus quelque chose. Tu vois un enfant bien éduqué, il y a eu du travail. Tu vois une bonne parnassa, il y a eu du travail.
Chaque chose, elle a demandé du travail. Donc, en fin de compte, c'est quoi? C'est le sacrifice que tu as fourni pour l'avoir. Et cette dimension-là, c'est la dimension du sacrifice. Alors maintenant, si on dit que c'est ça le sacrifice,
alors maintenant, imaginez maintenant, et Abraham, il est là. Et il veut faire, maintenant, il a compris dans la vie, lui, Abraham. Il a dit, maintenant, je dois sacrifier mon fils. Je dois sacrifier mon fils. Ah, maintenant, nous, on dit que c'est horrible, mais comment il pouvait tuer son fils? Mais non, il n'allait pas le tuer. Mais quand tu prends ton fils, tu le mets à la yeshiva. C'est comme si tu l'as tué pour la fac. Comprenez ou non? Et toi, ton fils, tu l'as... Moi, j'ai un Rav, par exemple. Je lui dis, mais Rav, pourquoi vous partez jamais en vacances? Pourquoi vous arrangez pas votre maison? Pourquoi vous faites pas une belle maison? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je veux pas que mes enfants, plus tard, ils se fatiguent toute la journée à gagner l'argent pour assumer le standing que je leur ai donné. Ah, c'est vrai, parce qu'imagine, quelqu'un par exemple, il a 10 000 euros pour vivre chaque mois. Il dépense 9 000 euros pour le standing et 1 000 euros pour manger. Alors celui-là, il gagne 1 000 euros, il mange. Tu dis, mais le papier peint, il est dégueulasse. La moquette, elle est pourrie. Oui, mais il mange. Alors celui-là, il mange et ils connaissent tout le Talmud. Ouais. Et toi, Baruch HaShem, tu changes le papier peint tous les 3 mois, mais le Talmud, ça va arriver. Zéro Michelin, on n'est pas grandi dedans. C'est-à-dire, il m'a dit, je veux pas les faire goûter à quelque chose. Qu'après, ils vont dire, mais c'est comme ça que ça doit être. Donc, je vais travailler 20 heures par jour pour me payer le papier peint. Oh là, le marbre. C'est un calcul, non? Mais moi, je disais, vous partez pas en vacances. Il m'a dit, pourquoi faire?
Pour que les enfants, quand ils rentrent, ils regressent les vacances.
Oh, c'est des raisonnements ashkenazes, donc on connaît pas ça.
Mais... Parce que nous, on aime le petit kiff, les poissons grillés, au bord de la plage. Ils connaissent pas, eux, les icebergs, le hareng. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il comprend que de toute façon, il y aura un prix à payer. Donc Abraham, il était prêt à payer le prix. Donc quand Dieu lui a dit, hey, stop! Je vais te mettre un bélier à la place. Bon, en vérité, Abraham n'était pas tellement content. Il n'était pas calme. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans l'histoire juive, il y aurait malheureusement des moments très très durs. Ouais? Très très durs. Et bien ces moments-là, pourquoi tu peux les passer? Ben parce que tu as eu de la vie dure.
La vie dure. Moi, mes enfants, des fois ils ont mal aux dents. Ils ont un petit peu mal aux dents. Ils tombent par terre, ils se font mal. Je dis, va mettre un petit peu d'eau et viens, on va discuter. Pourquoi? Et s'il a mal? Eh bien il a mal. Et s'il a honte, eh bien il a honte. Et s'il a fait une bêtise et il regrette, eh bien il regrette. Mais il faut bien qu'il regrette bien. Qu'il s'angoisse bien. Tu sais pourquoi? Mais non, dis-lui que c'est pas grave, donne-lui un doliprane, mets-lui un cachet dans ça. Mais non, parce qu'il a mal aux dents, doliprane. Il a mal à la tête, doliprane. Il a mal au cœur, doliprane. Mais un jour sa femme, elle va le quitter. Il n'y a pas de doliprane. Dans la vie, il y a du bien et il y a du moins bien. On va pas dire il y a du mal, mais il y a du moins bien. S'il y a du moins bien, il faut que l'homme s'adapte à ça.
Maintenant, lui, c'est très bien, Abraham, que Yitzhak, c'est l'avenir d'Israël. Et quand dans l'histoire d'Israël, il y aura du bonheur et il y aura du malheur. Donc maintenant, si on va bien vivre le malheur, on va bien le vivre, c'est-à-dire on va bien optimiser ce malheur, et bien il devient un bonheur. C'est la preuve. C'est que c'est quoi un malheur? Un malheur, c'est un bonheur qui n'a pas été optimisé.
Les gens disent, mais quand ils peuvent divorcer, ils ont tout pour être heureux. Oui, mais le bonheur, il faut l'assumer.
Quand tu as une femme magnifique, il faut être là pour entretenir, pour la rendre heureuse. Sinon, le voisin, il va s'en occuper. D'accord? Quand tu as des enfants intelligents, il faut être à la hauteur. Il faut leur faire étudier, il faut leur faire... Moi, une fois, j'avais peur pour mes enfants. Je demandais des brachot chez les rabbanim. Un grand mekouba dans Israël. Je lui ai demandé la liste, je lui ai dit, regardez, celui-là, j'avais peur. Il m'a dit, en baria, kol beseder, ten la en il mode. J'ai pas compris. Il m'a dit, donne-leur à étudier. Je comprends pas. Il m'a dit, travaille les midotes, prie. Non, il m'a dit, t'es là, il m'a dit,
Et bien pourquoi? Parce que Batala et Vili Shigaon. Pourquoi les enfants ils font des bêtises? Parce qu'ils sont sous-exploités dans leur intelligence. Alors comme ils s'ennuient à l'école, ils font des bêtises.
Il m'a dit, donne-leur à étudier à tes enfants, il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que si tu leur donnes pas à étudier, ouais, et qu'ils s'ennuient, et ils pensent à des bêtises, ils font des bêtises. Si quelqu'un est intelligent, c'est comme une, si tu achètes une voiture qui roule à 200 à l'heure, va rouler de temps en temps à 180. Mais si tu t'en sers juste pour acheter le pain, le radiateur il va s'encrasser, le carburateur il va s'encrasser. C'est une voiture de course. Alors Dieu il nous donne des néchamotes de folie et nous on les utilise pour apprendre 3 fois 2, 3 fois 5. Apprends-lui des néchamotes, apprends-lui encore. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as peur que quoi? Il va être trop haram. Ah, tu sais, ils ont besoin de se reposer. Mais t'as pas compris quand il se repose. Il est sur MSN. MSN, c'est connu en France. C'est le mouvement de soutien des nuls. D'accord? Mais, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle comprend qu'il y a un prix à payer. Maintenant, encore une fois, le bonheur, c'est le bonheur. Et le malheur, c'est le malheur. Et dans la vie, c'est comme ça. Et j'ai dit, c'est marrant parce que j'ai compris cette notion-là. Et après, j'ai perdu mon père. Et mon père, il est parti une semaine après la naissance de mon premier petit-fils. Donc imagine que ma fille, elle est venue avec le bébé, et moi, je comprenais rien. Je n'ai même pas vu le bébé, parce que j'étais dans la maladie de mon père. Alors, c'est-à-dire que quand je suis revenu des 7 jours de deuil, j'ai vu que j'ai eu un petit-fils, parce que je n'avais pas la tête. Et le jour de l'enterrement, il y avait la Brit Mila. Alors, imagine, toi, tu es en Israël, devant ton père, qui va être enterré dans une demi-heure, et au téléphone, il te dit, ça y est, papa, on a fait la Brit Mila, on l'appelait comme ça. Alors, tu dis, qu'est-ce qu'il veut, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Pas faire un jour, ou la deux, ou la une semaine. On a toute la vie, on n'est pas pressé. Ouais. Il fallait qu'il voie son arrière-petit-fils. Et il fallait même qu'il voie, parce que c'est l'attaché de marier mon fils, il a vu la fiancée avant de partir. La fiancée et le petit-fils avant de partir. Et après, il part. Après, il part. Maintenant, j'ai dit, on a voulu l'emmener en Israël de son vivant. On n'a pas réussi. C'était impossible comme ça. Les blocages, des trucs, les médecins, les changements de billets, les cassements de tête. Et le jour où on est niftar, en une heure, tout est réglé. On est niftar le matin, le soir, on était dans l'avion avec lui. Je dis, pourquoi des fois le bon Dieu, il bloque, et des fois le bon Dieu, il bloque? Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit, comment ça se fait que mon père, il est niftar le matin? Normalement, c'est au moins 2 jours. En France, c'est le lendemain minimum. Il y en a 3 jours, 4 jours. Des gens avec des ministres, des trucs, ils n'ont pas réussi à faire moins de 3 jours. Et là, le lendemain même, on était en train à l'enterrement en Israël. Et le soir même, on était dans l'avion avec lui. Et ma femme, elle m'a dit, mais t'as oublié que ton père n'était jamais en retard. Non, mais c'est pas une blague. Il n'était pas en retard. Il ne perdait jamais le temps. Mais c'est ça qu'on ne perd pas le temps. Pourquoi? Parce que le premier rigueur de ce midrash, c'est que Avraham, il a levé les yeux, il y avait le corban. Il était là, le bélier. Vous comprenez ou non? C'est marqué Vaya. Vaïssa et Taina, Vaya, il a levé les yeux, il l'a vu, Veinari, il était là. Alors, Rabbi Yochanan, il avait un calva chomer. Il a dit, parce qu'encore une fois, on est en train d'expliquer comment est-ce que Yaakov, il explique à Yitzhak, en passant pour Esav, comment c'est possible qu'il a fait tellement vite. Vous vous rappelez ça ou non? Oui. Il a dit pourquoi? Il a dit, regarde, si déjà, toi, quand il a fallu te sacrifier en tant que corban, tout de suite, Hachem, il a envoyé un bélier, à plus forte raison pour t'amener à manger le gibier, il va venir tout de suite. T'as compris le raisonnement ou non? Ça va.
Ça, c'est Rabbi Yohanan.
Resh Lakish, il dit d'une autre manière. Encore une fois, c'est Yitzhak, c'est Yaakov qui se fait passer pour Esav et qui parle à Yitzhak. Il dit, mais Yitzhak, rappelle-toi. Donc son père, il lui a demandé comment ça se fait que tu fais tellement vite. Il a dit, mais rappelle-toi, quand Abraham, ton père, il a envoyé Eliezer pour choisir une femme, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Eliezer, il a été, il s'est mis devant un puits, ouais, et il a fait une prière. Il a dit, la première qui se présente, ça sera la femme d'Yitzhak. La première! Mais il a pris un risque énorme si c'était un chameau qui était venu. Tout l'avenir d'Israël aurait été. Il s'est marqué là-bas. Reichal et Daber, je ne sais pas exactement les mots. Kikal et Daber, je ne sais pas. Il a terminé de parler, Vein et Rivka. Comme c'est marqué. Il a fini de parler, il y avait Rivka. Alors on ne sait pas, est-ce que Rivka elle était catapultée là-bas, ou que le parterre il s'est rattrapé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle était là. Je dis, c'est quand même bizarre. Alors, il y a une femme qui a la première. Il lui dit, Si déjà, pour te marier, Akadosh Baruch Hu t'a envoyé une femme tout de suite, à plus forte raison, pour te trouver à manger, qui va t'envoyer tout de suite. T'as compris le raisonnement?
Il est quand même, le Midrash, il est incroyable. Qui c'est quoi? Il a parlé, regardez. Le manger, ouais, c'est maisonné, ce que tu manges. On a expliqué, le korban, c'est quoi? C'est la vie, parce que dans la vie, il y a du bien et du mal. Ça s'appelle le prix à payer. Encore une fois, quand on est petit, on dit « Oh, il y a des souffrances », et quand on dit « Oh, il y a des bonheurs, il y a des souffrances, il y a des bonheurs ». Ça, c'est des dagines. Quand tu les mets à frire, ils sont cuits. Mais les gens, ils ont compris que dans la vie, il y a du bien et du mal. Donc, comme il y a du bien et du mal, le bien et le mal, ils sont bien. Première étape, tu ne comprends pas. Deuxième étape, tu te révoltes. Troisième étape, tu as compris que c'est nécessaire. Maintenant, quand tu es un adulte, normalement, quand tu es un adulte, ouais, tu ne vas pas tomber en dépression parce qu'il y a un malheur, et tu ne vas pas être complètement délirant de joie parce qu'il y a une joie. Tu vas être normal. C'est normal qu'il y ait de la joie, et c'est normal qu'il y ait des problèmes. Ça s'appelle la vie, chayé. Maintenant, le korban, c'est chayé. D'accord? La nourriture, c'est maisonné. Et le mariage, c'est quoi? C'est béné, pour avoir les enfants. C'est béné, chayé ou maisonné. Béné, chayé ou maisonné. Les enfants, ouais, donc le mazal, et la parnassa, et les maisons, et qu'est-ce que j'ai dit encore? Et la vie, ouais. Les trois, ils viennent de cette manière. Mais de quelle manière ils viennent? Ils viennent comme ça. C'est quoi? Il a fini de parler, et il y avait Rivka. Il a fini de parler, il y avait Rivka. Moi, je connais des gens, ça fait 62 ans qu'ils attendent le mariage. Donc ceux-là, ils ont fini de parler depuis longtemps. Ou alors, 84 shidduchim. Ouais. Celui-là, il en est à son sixième mariage. C'est là, il attend toujours.
Et là?
Il attend. Toujours. Ouais.
Pourquoi ça vient par là?
Et l'autre, ça parle à ça, il va par là, il va par là, il va par là. Pourquoi ça vient pas comme ça? Et l'autre, la capara aussi, ça vient pas tout de suite. Les gens, ils attendent 5 ans, il y en a, ils attendent 10 ans, ils attendent 20 ans. Ouais. Quand vous posez la question à un médecin, bah alors de quoi il est mort? Ah, il dit c'est plus difficile, on peut dire un peu de ça, on peut dire un peu de ça, on peut dire un peu de ça, un peu de ça. En fin de compte, il y a une chose qui est sûre, ils en savent rien. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs. Et c'est bizarre, pourquoi quand quelqu'un tue, tu lui tires une balle, il meurt tout de suite? Ouais. Mais il y a une autre mort que c'est une maladie, tu ne la vois pas. En plus, le cancer, c'est très vicieux parce que tu ne vois même pas que la personne est malade. Et le jour où tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard. Et en plus, c'est une maladie très vicieuse parce que même, c'est qu'avec un scanner que tu peux le savoir. Avec la coloscopie, avec les examens, avec tout, tu ne vois rien. Alors pourquoi le bon Dieu, des fois, il te dit c'est maintenant, et le bon Dieu, des fois, il te dit c'est plus tard? Et des fois, quand tu dis plus tard, ça veut dire trop tard. Alors, c'est pour qui? C'est pour la personne, pour qu'elle souffre moins? Ou c'est pour l'autre qui s'habitue à l'idée? Vous savez, tous les jours, les médecins te disent ça va pas, c'est une mauvaise situation, on n'est pas content des résultats. Et toi, dans l'idée qu'il faut se préparer au pire, en fin de compte, il te prépare à l'idée. Oui? Non, ça, c'est par rapport à la mort. Mais dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Par rapport au divorce, c'est pareil. Par rapport à une souffrance, c'est pareil. Les gens disent, mais j'arriverai jamais à accepter ce divorce. Mais enfin, madame, vous savez très bien que ça fait très longtemps que ça ne marchait plus entre vous. Oui, c'est vrai, mais enfin, on a toujours l'espoir. C'est l'histoire du ventilateur. Vous rappelez le ventilateur? Non? Personne révise ou quoi? Le ventilateur, c'est ce que c'est un ventilateur. Le ventilateur est branché sur une prise, vous l'allumez, il tourne, il fait du vent. Ah, il fait du vent, c'est super. Puis après, à ce moment, il ralentit. Et puis après, là tu commences à voir la pâle, tu le vois, mais. Et puis après il freine, puis après il s'arrête. Alors il y en a un, il vient et dit, tu sais, ça fait longtemps que j'ai enlevé la prise. Quand un ventilateur il s'arrête, tu ne sais jamais depuis quand la prise elle a été enlevée. Tu sais pourquoi? Parce que même quand on enlève la prise, il continue à tourner. C'est pareil, tu vois des couples qui divorcent. Tu dis, oh quel malheur, ils divorcent. Mais ça fait déjà 5 ans que ça n'allait plus. Ça fait déjà 3 ans qu'ils font plus, ils dorment plus dans le même lit. Ça fait déjà 4 ans qu'ils ne se parlent plus. Alors qu'est-ce que tu veux dans toi? Genre, oh, quel divorce. Mais quel divorce, ça fait longtemps. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils ont débranché la prise et que le courant ne passe plus entre eux. Pourquoi ils reprennent l'exemple du ventilateur? Parce qu'ils font que de l'air. Eh bien, la vie, c'est pareil. Tu crois que tu vois cette société, elle monte. Après, tu dis, dépôt de bilan. Comment c'est possible? Mais encore l'année dernière, elle a pris 64%. D'accord. Alors ils sortent les chiffres, ils disent, ils ont menti cette année, ils ont menti là, ils ont menti. Donc en réalité, c'est un ventilateur. Il faisait que de l'air. Comprenez ou non? Et l'idée, c'est quoi?
L'idée,
c'est que tu ne peux pas toujours te fier à ce que tu vois.
Très difficile.
Ouais. Tu vois quelqu'un de valeur, tu fouilles un peu, tu vois que c'est une poubelle.
Il a été fraîchement repeint de ce matin.
Comprenez-vous, non?
Et des gens, tu vois des gens très très simples. Bon, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Et plus tu fouilles, plus tu vois quelqu'un d'extraordinaire. Les gens, ils te racontent des histoires. C'est pourquoi on réunit les endeuillés.
Parce que les endeuillés, quand ils sont assis ensemble, ils parlent. Chacun, il parle d'une histoire. En fait, quand il te raconte une histoire que toi, tu ne connaissais pas. Parce que lui, il a vu un angle comme ça, en tant que frère. Lui, il a vu en tant que sœur. Lui, il a vu en tant que cousin. Après, avec tout ça, tu as un espèce de portrait robot de la personne, générale. Donc, en réalité, tu ne connais qu'un centième, peut-être qu'un millième. Puisque chaque personne qui le côtoie, il le perçoit différemment. Donc, si tu as côtoyé 10 millions de personnes, okay, tu connais un 10 millionième. Alors, on te réunit toutes les personnes les plus proches pour que tu aies une espèce de portrait global. Alors, je dis, mais alors, si on attend que les gens y meurent pour se rendre compte qu'on ne les connaît pas, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on connaît vraiment les gens qui sont vivants? Comprenez ou non?
Qu'est-ce que tu sais de tes enfants, au fond?
Tu crois que je les connais, ça, je les ai mis au monde, ils ont grandi chez moi.
Après, tu dis, si ton fils, il fait ça. C'est sûr?
On a les photos. Il a bien caché son jeu. C'est que le début. Il a 8 ans.
D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Si tu crois que tu connais, tu connais pas. Tu crois que tu connais ta femme, ça fait des années que tu lui offres le même truc. Tu crois que tu connais ton mari? Chaque anniversaire, une cravate. Mais il aime pas les cravates. Il en peut plus. On dirait que tu lui fais une allusion. Tiens, si tu veux te pendre. Et lui, il se dit, avec toutes les cravates que j'ai, je peux m'enfuir, maintenant je fais une corde et je peux descendre par la fenêtre. Il n'y a pas les cravates, trouve autre chose.
Ah, mais je suis à Paris, je crois que j'ai la tête, moi. Il me dit, c'est mon anniversaire, j'achète une cravate.
Achète autre chose.
Ah, mais tu connais pas ton mari, tu connais pas sa femme. Ces deux-là, ils connaissent pas leurs parents. Ces trois-là, ils connaissent pas leurs enfants, parce qu'il y a trois, parce qu'il y a l'amant.
D'accord, donc en vérité, on va quoi? Personne ne connaît personne. Personne ne connaît personne. Alors tu dis, alors en fait, quand on est quoi dans cette vie? Et le plus rigolo, c'est plus les gens, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent, moi ils maîtrisent.
Genre, il fait grand patron, non, t'es un grand médecin spécialisé dans cette maladie, t'as un maîtrise, viens chez toi, voilà, ta. Le bon Dieu, il a beaucoup d'humour, il lui envoie exactement cette maladie chez sa fille qui ne peut pas la soigner.
Alors, il lui dit alors, monsieur le bon Dieu de l'hôpital, parce que quand il rentre à l'hôpital,
il met sa blouse blanche.
Et tous les autres médecins, ils sont là. Adon Améler. Lui, il en fait. C'est facile quand le malade, il est là. Ouais. Mais quand c'est ta fille qui est là et que tu n'as pas de solution, allez, va jouer le grand patron. Alors tu fais comme les autres. Tu prends ton petit Tehillim, tu t'assois et tu pleures. Peut-être. Si tu arrives à casser ta gare, peut-être. C'est pas évident.
Et dans tous les domaines, c'est pareil.
Pourquoi? Kachbourou, il veut que cette croûte qui t'empêche de vivre, il faut la casser. Maintenant, celui-là, il a cassé sa gava parce que sa femme, elle veut partir. Celui-là, il a cassé sa gava parce que son fils, il veut se droguer. Celui-là, elle a cassé ses peurs parce que son mari, il a dit, écoute, je t'adore. Alors, elle a déchiré sa peur de lui dire qu'est-ce qu'elle pense vraiment.
Ouais.
Chacun, il a une croûte qu'il faut qu'il enlève. Maintenant, qu'est-ce qu'elle empêche, cette croûte? Cette croûte, elle empêche de vivre en temps réel. Ce qu'on appelle le présent réel. Vous voyez, il y a le présent réel et il y a le présent relatif. Ça, c'est un très grand rav qui a donné cet enseignement. C'est le rav de la SNCF. Je ne sais pas si vous l'avez connu. De la SNCF. Comment c'est en Italie?
Rav Metro.
Metro. La rai. Trenitalia. C'est le rave de Trenitalia. Je ne sais pas si je l'ai cité. Je me rappelle. Je l'ai cité ou non? Ça dit quelque chose? Le rave de Trenitalia, il a dit quelque chose d'incroyable. Restez concentrés parce que ça va aller très très vite. Le rave de Trenitalia, il a dit: le train de 8h17 part à 8h17. Le train de 8h17 partira à 8h17. Le train de 8h17 est parti à 8h17. Est-ce que vous avez senti l'enseignement? Non? Alors je vais vous expliquer. Des fois, vous arrivez à la gare. et vous allez courir comme un fou. Et vous avez une valise, elle est lourde, on dirait un frigidaire. D'accord, tu vas mourir. Je connais ça, moi. Tu arrives en haut de l'escalier et tu arrives juste sur le quai où il n'y a pas d'escalator. Tu arrives en haut, tu sens que ton bras il s'est rallongé d'un mètre. Et au moment où tu arrives, tu vois le train qui part. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le train il part devant toi. Alors tu attrapes le contrôleur. Tu dis, mais enfin, monsieur le contrôleur, c'est pas possible. J'ai un billet pour le train de 8h17. Je suis sur le quai du train de 8h17. Il est 8h17, il y a écrit 8h17. Et le train il part. Alors tu dis, mais monsieur, c'est normal. Monsieur, il est 8h17. Il dit, mais enfin. Il m'y comprend rien celui-là. Mais j'ai un billet pour ce train de 8h17. J'ai le billet, le voilà. Il est 8h17. Je suis sur le quai de 8h17. Et le train, il n'est pas là.
Vous avez compris ou non? Vous n'avez pas compris?
Mais des fois, quand tu arrives en haut du quai, c'est pas le train qui part, c'est ta femme qui part. Ça fait 8 ans et 17 jours qu'elle attend. Des fois, c'est ton fils qui part. Des fois, c'est un business qui part. Le train, il part à 8h17. Tu dis, mais comment je vais faire? Il te dit, monsieur, vous pouvez prendre le train de demain à 8h17. Il partira demain, le même train à 8h17. Mais il n'y aura pas les mêmes personnes dedans. Il n'y aura pas la même occasion. Il n'y aura peut-être pas le même chidour. Mais il va partir le train à 8h17. Tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez revenir en arrière et revenir dans le train d'hier de 8h17. Tu dis, c'est pas possible. Eh bien, le train de 8h17, il part à 8h17. Le problème, c'est quoi? C'est, est-ce que toi, tu connais les horaires de la gare de la vie? La gare de la vie, elle a des horaires. Ils sont marqués. C'est ça qui est incroyable, mais c'est marqué. Regardez, voyez. Alors, donc, vous voulez partir? Ben, écoutez, c'est 8h17. Il dit, mais je voulais partir à Firenze. Ah, c'est le train 9h17. Je voulais partir à Rome. Ah ben, 11h13. C'est-à-dire qu'il y a un train qui part à Rome à 11h13. C'est-à-dire que quand toi, tu vas sortir de ton baccalauréat, on va te proposer une chose, c'est un train. Tu dis, non. Je réfléchis, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. D'accord, bon, c'est pas grave, t'as raté ce train. Il y avait cette fille, elle était sérieuse. Et toi, tu dis, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre Dieu. Bon, tu te maries avec l'autre. Bon, c'est bien, tu t'es amusé une semaine. Après, elle t'a fait souffrir pendant 10 ans. Après, t'as divorcé. Et maintenant, l'autre, elle revient devant toi. Elle, tu sais, finalement, je me suis pas marié. C'est marrant, celle-là, elle revient. Ouais, le train, il est revenu par la correspondance. Toute la vie, c'est comme ça. On s'appelle ça le train. Alors, le temps réel. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu a le même présent que nous? Dieu, il a une histoire dans la tête. D'accord? Dieu a une histoire. Mais nous, maintenant, on vient dans ce présent. On est là. Alors, on dit, est-ce qu'on est dans le présent de Dieu? Ou alors, non. On a une croûte qui a dit, c'est pas évident, c'est difficile, j'ai pas la tête, c'est de ta faute, c'est trop dur. C'est comme Dieu. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, comme ça on révise, découvre un petit peu qu'on a fait pendant toute l'année. C'est que les gens, quand tu leur poses une proposition, voilà, hier soir, il y a un jeune couple, ils doivent se marier, si Dieu veut, en octobre. Ça fait 3 ans qu'ils se connaissent. Mais ils n'ont que des problèmes, ils n'arrêtent pas de se crier dessus. Il me dit, est-ce que c'est bien qu'on se marie tous les deux? C'est une bonne question. Ah, le garçon, oui, mais elle est comme ça, la tête défaut, tel défaut. Elle dit, oui, mais lui, il ne me rassure pas, je ne le sens pas. Bon, ils ont des années différentes. Je dis, mais est-ce que par hasard, vous avez fait des bêtises ensemble? Moi, ils osent me dire avec moi, ils savent que je suis un rabbin cool. Ouais. Il m'a dit, oui, effectivement, mais depuis le Shabbat plein que l'on a fait en mois de novembre avec vous, on a décidé de ne plus avoir de rapport, mais quand même, on essaye de vérifier quand même la qualité du tissu et tout ça. Travaille dans les schmates, alors il veut toujours. J'ai dit, mais voyez déjà, un homme, une femme et Dieu, c'est difficile. Mais un homme, une femme, quand Dieu s'en va, il reste le Satan. Avec le Satan, c'est très compliqué. Les malentendus, les contradictions, les souffrances, les bêtises, la haine, la rancune, les malaises, les peurs et les névroses. C'est dur. C'est très dur. Mais toute la vie, c'est pareil. Parce que Dieu, il est là et toi, tu es là. Donc le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il y a contact ou il n'y a pas de contact? Alors, quand quelqu'un ne veut pas assumer son présent, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il s'invente des histoires. Il s'invente des histoires. Regardez un phénomène bizarre. Vous rentrez dans une bar mitzvah, ou là dans une bat mitzvah. Vous savez comment ça se passe? Vous rentrez, vous voyez une personne. Non, vous la voyez, elle vous voit. Le regard, pendant 1/100 de seconde, il se croise. Donc toi, tu as vu qu'elle t'a vu, elle a vu que tu l'as vu. D'accord? Et tu tournes la tête. Après, tu t'approches. Mazal Tov, bonsoir. Oh, mais je t'avais pas vu. Oh, bon, question, ça fait plaisir. Oh, et comment vont les enfants?
Moi, je pose une question idiote. Ce mensonge-là, il sert à quoi? De toute façon, elle t'a vu, tu l'as vu. Comprenons, il sert à rien. C'est un mensonge. Tu me ranges, c'est genre, je veux pas faire genre, je t'ai vu. Alors, moi, je fais exprès, moi, quand les gens ils me voient, ils tournent la tête, je m'approche, je dis Shalom. Ah t'es malade ou quoi? Tu l'as vu. Comprenez ou non? Exprès, je veux casser la glace pour pas rentrer dans ce mensonge qui sert à rien. Un phénomène bizarre aussi. Voilà, t'es allongé dans ton lit, un après-midi comme ça. D'accord, t'es allongé comme ça, en train de réfléchir. Ta femme, elle rentre. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Alors tu dis David, lève-toi. Oui. Mais non, t'as fait ça à 15 ans. Tu dis bon, il a 15 ans. Mais à 38 ans, ça devient bizarre. Alors je pose la question, ce mensonge là il sert à quoi? Il sert à rien. Comprenez-vous? Il est bizarre. Il sert à quoi? Alors en vérité, c'est un peu plus profond. Pour ceux qui ont eu la chance de faire des études de psychologie ou alors un passage en psychiatrie, c'est que je vous donne la hidouche. Mais moi j'ai pas fait d'études, mais avec les expériences, avec les milliers de cas que j'ai rencontrés, parce que quelqu'un il m'a dit, mais enfin, un psychologue il m'a dit, mais enfin, tu as quand même ça, une profondeur d'analyse au niveau caractériel qui est extraordinaire. Je dis, mais dis-moi, je dis, toi, tu as combien de patients par jour? Il me dit, j'en ai 10. Je dis, moi, j'en ai 1000. J'ai 2000 personnes par semaine, d'accord, avec des centaines de téléphones. Alors je vais te dire, c'est quoi l'idée? Regardez, je vous donne qu'est-ce qu'on peut apprendre. Une personne, elle vient, c'est un phénomène bizarre, hein. Elle dit à la personne, à la fin d'une conférence, est-ce que je peux vous parler? Je dis, pas de problème. Elle dit, j'ai une question. Je dis, d'accord. Alors, elle me pose la question. Ou il me pose la question. On pose la question. Moi, j'ai été bien élevé par mes parents. Quand les gens me posent une question, j'écoute et je réponds. C'est une éducation. Il y a des gens qui s'en vont comme ça. Tu dis, bah oui. Donc la personne, elle pose la question. J'ai bien écouté la question. Quand elle a fini de poser la question, j'ai dit à la personne, est-ce que ça vous dérangerait de reposer la question en vous écoutant poser la question? Elle me regarde avec des yeux genre, je pense qu'elle est jeune, mais en fin de compte, il est âgé, parce qu'il y a les raves jeunes et les raves âgés, d'accord? Donc, elle m'a dit, bon, par respect pour le rabbin, elle repose la question en se concentrant pour écouter la question. Je dis donc, vous avez posé la question, vous avez reposé la question en écoutant la question, et maintenant, vous vous attendez à ce que je vous donne une réponse. Elle me dit, oui, effectivement, c'est pour ça que je suis venu. Là, t'extras, c'est bien. Moi, qu'est-ce que je fais? Écoutez bien, je dis, attention, on répète. Donc, vous avez posé une question, vous avez reposé la question en écoutant la question, et vous n'avez pas de réponse. Elle m'a dit, non. Donc maintenant, je vais vous répondre à une question que vous n'avez pas de réponse. Elle me dit, oui, cette question, ça fait des années que je l'ai, et je n'ai pas de réponse. Je dis, d'accord. Alors, je dis, maintenant, je vais vous donner la réponse. Alors, écoutez bien. Je lui donne la réponse. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la personne? Elle me dit, c'est exactement ce que je pensais. Ou elle te dit, vous avez mis des mots sur ma pensée. C'est exactement ce que je ressentais. Ah, vous avez reconstitué le puzzle. Les choses étaient éparpillées dans ma tête. Maintenant, les choses sont claires. Alors, moi, je pose une question. Pourquoi les gens, ils connaissent toujours les réponses? Alors, pourquoi ils ne les donnent pas? Il y en a, ça fait 5 ans. Il y en a 10 ans. Ça fait 30 ans qu'ils ont la question. J'ai été voir tous les rabbins, les psychologues, même les marabouts, vous savez, les gens qui font des. On appelle les marabouts, mais c'est HM, d'accord. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Un bouteille, c'est pas chou, tu sais pourquoi? Et ça aussi, c'est un grand hidouche. Mais aujourd'hui, c'est les soldes, je sais pas ce qui se passe. C'est qu'en vérité, il faut étudier des années et des années et des années pour avoir confiance dans son bon sens. Le bon sens. Le bon sens. Parce que ce que le rabbin te dit, il n'y a rien de spécial. Tu dis, Ruach HaKodesh. Non, il t'a rien dit de spécial. En vérité, c'est rien. Enfin, c'est pas rien. C'est énorme. Parce que la vérité, plus elle est simple, plus elle est vraie. Les gens qui ont une vérité taboula comme ça, il faut qu'ils t'expliquent 44 fois pour que tu. Je. Ravanir. Nirochev, j'ai animé vie, mais. Je crois que j'ai compris, mais si tu peux répéter en vérité, t'as rien compris. La vérité, elle est toujours simple. La vérité comme l'air. Tout le monde peut l'absorber. C'est comme le soleil. Tu peux le recevoir. Mais quand c'est compliqué, taboula, c'est chose qui ne va pas. La pashtout, c'est pas chou. La pashtout, c'est pas chou. Et pashtout, c'est quoi? C'est entier. C'est d'un seul morceau. Tu reçois, puis c'est clair. Boum. Ah, maintenant le problème, c'est quoi? Alors si c'est pas chou, pourquoi c'est pas pashtout? C'est pourquoi c'est pas pashtout? Parce que toi, t'as peur. T'as pas confiance en toi. T'es pas clair. Maintenant, la réponse, tu l'as. La preuve, tu dis, c'est exactement ce que je pensais. Le problème, c'est quoi? Alors, pourquoi tu l'as pas dit? Alors, j'ai pas la force de le dire. J'ai pas le courage de le penser. j'ai peur peut-être que la question, ça va, c'est vachement confortable. Mais la réponse, ça veut dire, Arshav Tzarich La'alot. Puisque tu connais la réponse, il faut y aller. J'étais, quel jour d'aujourd'hui ? Mercredi. Non, mercredi, oui. Mardi, lundi. Lundi soir, j'ai fait un cours comme ça, un groupe de jeunes. Et il y en a, ils posaient plein de questions. Oui, mais Rav, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? Je dis, écoute mon frère, moi je suis fatigué. Tu me poses des questions pour comprendre ou tu me poses des questions pour avancer ? Il m'a dit, si je comprends, je vais avancer. Tu vois, dans le football, quand on arrive à 10 minutes de la fin, il y en a, ils jouent la balle. Et il y en a qui jouent le match. Alors l'arbitre, il a le droit de dire, arrêtez là, là vous jouez pas, vous faites semblant de jouer. Il y a des gens, ils font semblant de réfléchir. Il y en a, ils font semblant de vivre. Il y en a, ils font semblant de travailler. Quand le patron, il rentre, il prend un dossier, il fait, hoc, mais il fait rien. Tu dis, combien t'as fait de chiffres ? Beaucoup de coups de fil. Des coups de téléphone. C'est pour ça qu'on paye au pourcentage, parce qu'on veut du concret. Et dans concret,
il y a ce concret.
L'idée, c'est quoi ? C'est qu'une personne, elle n'a pas le courage d'assumer la réponse. Donc en vérité, le Rav, il n'est pas là pour te donner la réponse. Le Rav, il est là pour te donner la confiance d'accepter la réponse. C'est pour ça qu'il y a un côté paternel chez le Rav. Parce que le Rav, il donne une confiance. Et le père, c'est la même chose. Le père, il ne rend pas les enfants intelligents. Le père, il est là pour donner à l'enfant la confiance d'assumer la vérité qu'il a en lui. Et la mère, c'est pareil. Nous, on croit qu'on éduque les enfants. On croit. Je te forme la tête, je te construis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, il a sa chorma, il a son intelligence, il a tout ce qu'il faut. Mais rien que ne le détruit pas. C'est un rave, il a amené son fils à l'école. Il a dit, je ne vous demande pas d'éduquer mon fils. Mais ne le détruisez pas. Ils n'ont pas compris les rabbins. Ils ont dit, mais comment, mais putain, et manque de poste, c'est lui aussi, c'est un grand rabbin, donc ils n'ont pas trop osé. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on accompagne la personne. Alors j'ai toujours dit, de la même manière que tu accompagnes l'enfant pour qu'il devienne meilleur, un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre que toi aussi, tu t'accompagnes pour devenir meilleur. Parce qu'il n'y a pas de différence entre éduquer l'enfant qui est devant toi et l'enfant qui est en toi. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme, pour être proche de lui, il doit accepter d'être étranger de lui. Ouais. Proche de lui, il doit accepter d'être étranger de lui. C'est-à-dire que quand toi, tu es capable de sortir de toi pour te regarder toi, peut-être tu vas changer. Ça s'appelle le moussard. C'est ça le moussard. Mais il y a des gens, quand on leur demande de se regarder à eux, ils voient rien. Quand on leur demande de parler des autres, ils arrivent à parler beaucoup. Mais alors si tu dis, mais vous savez, essayez d'évoluer, essayez de grandir, mais vous savez, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas un balmoussard, je n'ai pas fait de la psychologie, ça ne sert à rien. Je dis, ce que tu arrives à faire pour les autres, fais-le pour toi. Maintenant, pourquoi tu arrives à le faire pour les autres ? Parce que l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Et tu n'as qu'à te considérer toi comme un autre. Ça va ? Alors la logique, c'est quoi ? C'est que les gens qui arrivent à l'heure, ce pas des gens qui partent à l'heure, c'est toujours des gens qui partent à l'avance.
Moi, je n'ai pas.
Celui qui arrive à l'heure, c'est pas celui qui est parti à l'heure, celui qui est parti à l'avance. Parce que j'ai dit, quand tu arrives à 8h17, il est 8h17, mais le train il est parti à 8h17. Donc celui, il arrive à 8h14. T'as compris ou non ?
En Italie, c'est
pas. Non, chaque pays il a son temps. Oui, mais chaque pays il a son temps. Mais c'est quoi l'idée ? C'est d'arriver à comprendre, est-ce que toi tu vis avec ton temps ? Alors pourquoi c'est très vicieux ? Parce qu'en fin de compte, le présent de chacun, il n'est pas le même. Le temps de chacun, il n'est pas le même. Tu ne peux pas comparer avec celui-là. Tu vois, celui-là, par exemple, il travaille. Tu lui dis, mais comment il fait pour gagner de l'argent ? Il te dit, moi, le client, j'ai besoin de le rencontrer. L'endroit, il faut que j'aille 6 fois sur place. Je veux manger avec la personne. Je veux sentir le produit. Je veux. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu as vu sur Internet le produit. Tu l'as fait, tu l'as commandé par Internet. Il t'a envoyé un proforma, tu le signes et hop, les cartons, ils sont déjà partis. Et tu en fais 10 par jour. Et encore des produits, encore des produits, encore. Et l'autre, il prend son temps et il dit, écoutez, je voudrais que nous nous voyions. Premier rendez-vous. Après un deuxième rendez-vous. Après, il dit, je voudrais manger chez vous. Je voudrais, on va travailler sur $1 million. Je voudrais être proche de vous. Après, il dit, bon, alors, venez, on va voir l'immeuble. Alors, il se balade comme ça. Je dis, mais comment il... Et c'est bizarre. Ils font le même chiffre d'affaires. Il fait 8 millions d'euros. L'autre, il fait 8 millions d'euros. Mais l'autre, il travaille 19 heures par jour. Et l'autre, il fait un rendez-vous par semaine. Ils n'ont pas le même temps. Maintenant, celui-là, s'il travaillait plus vite, il planterait. Et celui-là, s'il travaille moins vite, il réussit pas. Ils n'ont pas le même présent. Vous comprenez cette logique ou non ? Pourquoi ? Ça veut dire qu'on ne peut même pas prendre des modèles. Il faut que tu trouves ton présent à toi. C'est pour ça que dans l'éducation, il n'y a pas de Shulchan Aruch. C'est bizarre que la Torah, elle te dit comment manger, comment dormir, comment faire des enfants, comment s'habiller, comment faire du commerce, et il n'y a pas de Shulchan Aruch de l'éducation. Il n'y a pas de Shulchan Aruch du couple. Il n'y a pas un Shulchan Aruch du Shalom Bayit. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le couple, c'est l'autre moitié de toi, ouais, et les enfants, c'est Chanor Hanar Alpidarko. Il faut que tu trouves dans cet enfant son chemin à lui. Maintenant, c'est possible que l'aîné, il fallait être dur avec lui, et que le deuxième, il faut être cool. C'est possible que celui-là, il faut l'engueuler de temps en temps, que celui-là, ça lui suffit que des allusions. Et celui-là, il faut lui répéter un million de fois, et il comprend le million virgule un. Alors tu t'énerves, tu dis, mais avec ton frère, c'était plus facile. Alors il te dit, alors fallait pas me mettre au monde, fallait garder mon frère. Et ta sœur. C'est quoi l'idée? C'est que tu dis, chaque enfant, il a son chemin. Encore une fois, je ne veux pas vous dire sur l'éducation. Je veux vous dire que si chaque enfant, il a son chemin devant le père ou la mère, d'accord? Alors chacun, chaque homme, il a son chemin devant Dieu. Maintenant, imagine que le père, c'est Dieu. Imagine que toi, tu es l'enfant. Donc maintenant, toi, quand tu dis, je voudrais vivre à la vitesse de Dieu, au temps de Dieu, c'est quoi le temps de Dieu? Mais c'est très simple. Le temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle en français le présent. Alors, je vous dis un secret. Je vous dis un secret. Écoutez bien. Le jour où tu vivras ton présent en étant présent, c'est parce que tu auras compris que le présent est un présent. Alors, je vais vous expliquer d'abord. Le mot présent, en français, il a trois sens. Peut-être en italien aussi. Le mot présent, ça veut dire le présent, le temps présent. C'est une notion temporelle qui s'appelle le présent. Le mot présent, il veut dire aussi une notion d'état. Quand tu dis présent, je suis présent. Je suis présent là, je suis présent. Voilà, vous voyez, je suis présent. Mais alors, et le présent, c'est aussi un cadeau. Maintenant, le jour où toi, tu vis ton présent en temps présent, c'est parce que tu as compris que chaque présent, c'est un présent. Donc les gens qui gaspillent leur présent, c'est les gens qui n'ont pas compris que le présent c'est un cadeau. C'est seulement quand ils ont perdu leur présent, ouais, ou le présent de quelqu'un qu'ils aiment, que d'un seul coup ils se rendent compte de la valeur du présent. Moi je vous dis l'idée. Le matin où mon père il est niftar, j'ai eu cette image dans la tête. Il est devant moi, il est niftar. J'ai dit, alors on dit en français, il est disparu, il est décédé. Alors on dit, il n'est pas présent. Alors on dit, il n'a plus de présent. Il n'a plus de présent. Il est dans un autre présent où il n'y a plus de présent. Là où il est là-bas, c'est un infini. Donc le seul présent, c'est ici. Maintenant, toi, tu faisais passer son présent. Alors tu sais, quand on te dit, tes parents ils sont malades, alors essaye d'être plus présent. Essaye d'être plus présent. Où ça? Dans leur présent. Et eux, quand tu es présent dans leur présent, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est gentil d'être venu me voir. Tu m'as fait un très beau cadeau. C'est vraiment un présent. Si ça regarde un peu ce monde de fou. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est quelqu'un qui va dire que chaque présent que Dieu lui a donné, c'est un cadeau. Encore un présent. Encore un présent. Encore un présent. Même les gens, ils me disent, mais Rabbi, c'est pas évident. Vous avez fait ce cours ici. Après, le lendemain, vous le faites à Paris. Après, le surlendemain, vous le faites à Montréal. Après, trois jours après, vous le faites à Bruxelles. Vous n'êtes pas fatigué? Je dis, mais pourquoi je vais être fatigué? Ils me disent, c'est pas évident, à parler. Nanana. Je dis, mais moi, c'est un présent, moi. Ce présent-là, là, je l'adore. Tout ce présent, je l'adore. Je vis ce présent et je le kiffe, ce présent. Après, demain, c'est un autre présent. Vous comprenez ou non? Donc, ça n'a aucun rapport avec aujourd'hui. Tu mets, c'est le même cours. Mais même si c'est les mêmes personnes, même si demain, vous revenez les mêmes, et je vous refais le même cours et je vais le kiffer. Pourquoi? Parce que si le bon Dieu m'a donné un présent de plus, c'est que je dois faire quelque chose avec. Est-ce que j'arrive à me nourrir de ce présent? Maintenant, pour se nourrir du présent au présent, oui, il faut être présent. Évidemment, évidemment, je suis présent. C'est pas vrai. Il y a des gens qui rentrent à la maison, par exemple, tu dis, écoute chérie, je te sens absent. Tu parles avec l'enfant, il est là. Bon, tu peux te concentrer, c'est plus on est en train de... Il n'est pas là, il n'est pas présent. Alors, il est à l'école, mais il n'a pas envie de travailler. Alors, il n'est pas au présent de l'école. Ouais. Donc après, au bout d'un an, tu dis, vous savez, il a beaucoup de lacunes, ben, c'est normal. Parce que comme son présent, il n'a pas vécu au présent, donc c'est venu du passé. Et le passé, on l'oublie. Et le pire, c'est que lui, il ne vit pas son présent parce qu'il pense au futur. Je vais gagner de l'argent vite. Donc, il rate son présent. Il rate son passé. Il rate son futur. Parce que quel futur il va avoir avec un présent qu'il a vécu au passé? Et ça, c'est la force du Yetzer Hara, de te faire gaspiller le présent. Alors, c'est quoi la mitzvah? C'est de vivre au présent. Maintenant, on a dit que plus que chacun, il a un présent différent, alors qu'il arrive à percevoir où il est Hachem dans le présent et qu'est-ce que Hachem il attend de lui dans chaque présent. Chaque situation est jamais pour rien. Alors, je vous donne le schéma de réalisation. Une personne, elle a une impulsion, une idée. Cette impulsion, dessus, il va avoir une réflexion. Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, lui, etc. De cette réflexion, il doit faire une décision. Et de la décision, il doit faire une réalisation. Ça va? Donc, impulsion, réflexion, décision, action. Maintenant, normalement, chez les gens très évolués, l'intuition, elle est très très proche de la réflexion. Parce que la réflexion, elle t'a tellement été éduqué, t'as tellement fait de Gemara, et t'as tellement fait d'équations, qu'après ta réflexion, elle devient intuitive. Donc tu sens plus que tu ne réfléchis. Mais comme ta réflexion, elle était éduquée, donc les schémas de la réflexion, ils s'appliquent de manière intuitive. Donc tu réfléchis à la même vitesse que tu ressens. Et chez toi, la décision et la réflexion, ça va ensemble. Parce que quand tu es convaincu de quelque chose, automatiquement, ça prend une nature de décision. Et de la décision à l'action, il n'y a rien. Puisqu'on dit que la moitié de la décision, c'est la décision. Ça va? La moitié de l'action, c'est la décision. D'accord? Ça va. Alors pourquoi c'est pas comme ça dans la vie? Alors il y a une expression en français, on dit « il m'a mis des bâtons dans les roues ». Donc vous imaginez le carrosse avec la grosse roue, avec les rayons en bois, les gros rayons en bois, et il y a un petit malin avec un bâton, il met le bâton dans la roue, et la roue se bloque. Ha ! M'a mis les bâtons dans les roues ! Vous connaissez ces expressions ? D'accord ? Mais moi, j'ai toujours une question. Mais pour qu'ils mettent le bâton dans la roue, il y avait de la place pour mettre le bâton. Parce qu'entre l'intuition et la réflexion, il peut y avoir la bêtise. Entre la réflexion et la décision, il peut y avoir le manque de respect de soi. Et entre la décision et le manque d'action, il peut y avoir la paresse. Yesh makom, il y a de la place pour mettre des bâtons. Donc maintenant la question est de savoir, est-ce qu'on t'a mis un bâton ou c'est toi qui t'es mis un bâton? C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, toujours dans le cours de Pessah, on dit ce chidouche, on dit « Ikar toldot haikuvim ba mishu isman ». Vous vous rappelez de ça ou non? Ceux qui étaient là au moins. Vous ne vous rappelez pas, mais vous, les autres, vous vous rappelez? Là, non, ça c'est autre chose, ça. Ça c'est au niveau psychologique. Mais dans le temps, c'est quoi? C'est qu'écoutez bien, la principale cause d'émergence des obstacles est la perte de temps. Toi, tu crois qu'on t'a mis l'ainara, ou que les gens ils t'ont pas aimé, ou que ça a bloqué pour une raison, ou que la banque elle t'a pas suivi. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a eu de la perte de temps. Et dans la perte de temps, il y a de la place. Ça veut dire, natata makom les satan, tu as donné de la place au satan. Tu sens que c'est bien, tu penses que c'est bien, tu dis que c'est bien, fais le bien. Tu dis, c'est pas évident, qui a dit à quoi ça sert, où va ça mener, pourquoi moi, qui a dit que c'est moi qui dois faire ça. Combien de fois tu donnes quelque chose à faire à quelqu'un, d'accord? Mais tu vois, il le prend comme... Le lendemain, tu es sûr qu'il va donner une raison. J'ai perdu ça, j'ai pas eu le temps, je me suis pas endormi, je me suis pas réveillé. C'est pourquoi? Parce qu'au départ, quand il a pris, il a fait. C'est fini, c'est mort. Un autre, il m'a dit. Bon, là, je prépare le gala, si Dieu veut, le 10 juin. Il y a un mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'ai un copain, c'est un metteur en scène. Tu fais toujours un film un peu bidon. Enfin, lui, c'est un spécial, il a des idées, il a du génie, il va te faire un truc de folie. Je dis, d'accord. J'ai pris tous les morceaux de film que j'ai, je lui ai donné. Je lui ai dit, vas-y, réfléchis, dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire avec? Oui, il m'a pas rappelé, après il m'a rappelé, après il m'a traîné, après il m'a truqué. J'ai dit, s'il te plaît, tu peux me rendre des cassettes? Alors il m'a dit, mais je t'ai dit que c'est une bombe atomique. Il va rien faire, celui-là. Ou alors, il va rien faire. Parce que le génie, c'est une force extraordinaire. C'est comme un moteur de Formule 1, mais il faut une voiture. Et si t'as la voiture, il faut une course. Mais il y en a, ils ont le génie, mais ils sont plus dans la course. Comprenez ou non? Ils sont parfifs. C'est bien, vas-y! Tout de suite! Mais comment tu auras une télé? T'es pas présenté là? T'es assis comme ça? en train de préparer quelque chose, votre téléphone. Je t'en prie, on a besoin de ça, tout ça. Tiens, hier, pour une autre association que je m'occupe, Mazone, là-bas, ils vont faire un grand spectacle au Cirque d'Hiver avec 1200 personnes. Il m'a dit, écoute, on va prendre une chanson, mais c'est une chanson d'un goy, mais on veut l'adapter pour le besoin de la truc. Est-ce que tu peux ? Maintenant, moi, je suis en train de régler un problème avec mon gars là, avec le mariage du petit, avec le truc, les billets d'avion et tout ça. Et lui, il m'envoie la chanson sur Internet. Et moi, maintenant, je suis en train de changer le texte. Et je lui envoie. Il m'a dit, mais. Alors le type qui reçoit le texte, il le donne à un copain à lui, et lui c'est un parolier, il écrit des paroles. Il m'a dit, mais qui c'est qui a écrit ces paroles? Il m'a dit, bah c'est le rabbin. Il dit, mais combien de temps il a mis? 5 minutes. Mais comment 5 minutes? Mais moi je mets une semaine pour faire ça. Je dis, mais alors, il me dit, alors il me rappelle, il me dit, rien, il est en train de rigoler, le parolier, comment tu as fait ça en 5 minutes? Il a dit qu'il a menti, t'as mis une semaine. Il dit, mais comment t'as fait pour faire en 5 minutes? Je dis, bah allez, dans la semaine, je vais prendre 5 minutes, et bah je vais les prendre maintenant. Comprenez ou non? C'est pas moi, c'est n'importe qui maintenant. Maintenant, je vais le faire maintenant. Donc, je vais prendre toute l'énergie d'une semaine, je vais faire laser. Et dans tout, c'est pareil. Tu vas apprendre à faire la cuisine, d'accord? Alors, maman, quand tu fais ça? Attends, maman, je prends le téléphone, je reviens. Ah, au fait, maman, tu mets du sel? Ah, excuse-moi, j'ai oublié la lessive. Après, maman, tu sais, ma fille, quand tu veux apprendre, tu viens avec moi. Ça va prendre 4 minutes, tu vas apprendre. T'es concentré? Tu vis au présent, c'est tout de suite. C'est que le présent, il est immédiat. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est est-ce que tu es d'accord, toi, de vivre des séquences de présent absolu? Je ne sais pas si vous me suivez. Chaque présent, il est absolu. Alors que nous, on croit que, bon, il y a des moments de tranquillité, il y a des moments un peu cool, il y a des moments d'accélération, il y a des moments de stress, il y a des moments... Et puis, c'est pas vrai. Chaque présent, le bon Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais avec ce présent? Qu'est-ce que tu fais avec ce présent? Qu'est-ce que tu fais avec ce présent? Chaque présent. C'est que la vie, c'est comme une série de diapos. Ouais. Et cette soirée avec ton mari, elle est unique au monde. Tu la retrouveras jamais. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Oh, je t'en prie, c'est une soirée comme une autre. Il y en a un, je l'appelle, je lui dis, bon, écoute, ta femme m'a appelé, appelle-la et dis-lui ça. Il dit, bon, je lui dirai la semaine prochaine. Je dis, écoute-moi bien, le shalom bayit, ça se compte pas en semaine, ça se compte pas en jour, ça se compte en heure, des fois ça se compte en seconde. Mais il faut lui parler maintenant. Elle est limite, je le sens, elle est limite. Appelle-la maintenant. Il m'a dit, non, pourquoi c'est à moi de suivre ses ordres? Je dis, ben, tu vas suivre les ordres de l'avocat. Et il a suivi les ordres de l'avocat. Le lendemain, elle lui a dit, c'est trop tard. Mais chacun, il a son présent. Maintenant, le présent, des fois, c'est les circonstances. Des fois, le présent, c'est la figure de la personne. C'est maintenant. Comme si le médecin dit, monsieur, ne bougez pas de là, on va vous faire l'opération tout de suite. Non, mais c'est pas grave, on reporte à la semaine prochaine. Non, 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 non. Vous avez un timbre bizarre, monsieur. Vous avez un rythme cardiaque pas normal. On fait l'opération maintenant. Pourquoi le médecin, il a le bon diagnostic? C'est ça un bon médecin? C'est quoi un médecin? Les gens, ils croient un médecin, c'est quelqu'un qui a fait médecine. Mais non, c'est pas ça un médecin. Il y a beaucoup de gens qui font médecine qui ne sont pas médecins. Un médecin, c'est quelqu'un qui a un bon diagnostic. Maintenant, un médecin qui te donne, il dit, écoute, j'ai mal là, il dit, écoute, on va vous mettre 83 médicaments, il y en a sûrement un qui va vous soigner, et les 82 qui vont vous tuer. Au moins, tu choisis ta mort. C'est pas un médecin, ça, c'est un mitrailleur. Le médecin, il doit te dire, vous avez ça, et vous allez prendre ça, et ça va se régler comme ça, à comme ça. Ça, c'est un médecin. Donc la qualité du médecin, elle est dans le diagnostic, d'accord? Ça va pour vous, non? Non, de vous à moi, ouais. On est tous les médecins de notre mari ou de notre femme. Tu sais exactement ce qu'il a besoin. Si tu n'as pas le bon diagnostic de ta femme, c'est qu'au fond, t'as pas bien étudié ta femme. Donc t'es pas devenu marié. Et tu dois avoir le médecin, tu dois être le médecin de tes enfants. Et tu dois être le médecin de ton business. Toi, tu sais exactement, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pour ça que tu es le patron. Alors tu dis, oh mais qui a dit? C'est pour ça que tu es employé, toi. Parce que quelle est la différence entre le patron et l'employé? Des fois, le patron, il est plus bête que l'employé. Mais qu'est-ce qu'il a, le patron? Il a la force de décision. Alors que l'employé, il a l'intelligence. Mais tu lui dis, bon voilà, il y a 6 millions d'euros maintenant, tu signes. Écoutez, il faut que je revoie mes théorèmes ou là mes calculs. C'est ça le problème. En parachutisme, on s'appelle ça le phénomène du go. Vous avez fait du parachutisme? Moi, j'ai envie de faire du parachutisme. Bon, mais j'ai peur qu'il ne souffle pas le parachute. Mais c'est que tu aies fait 5 heures de parachute ou 5000 heures de parachute, que tu aies fait un saut, 10 sauts ou 100 sauts, au moment où tu es devant la porte de l'avion, il y a toujours un type qui dit « Go !» C'est bizarre, non? Maintenant, imagine, le mec, il est prof de parachutisme. Il est devant la porte de l'avion. Alors, l'autre, il va dire « Hey, ça va, c'est pas la peine de dire « Go tu... !» Je vais sauter. » Pourquoi il y en a un qui dit « Go !» Pourquoi « Go !» Tu sais pourquoi? Parce que n'importe quel homme dans la vie, quand il arrive de la porte de l'avion, pendant une seconde, il se dit mais je suis un malade ou quoi? Et si le parachute, il s'ouvre pas? Imagine, Ward, le balin, il a mis les casse-croûtes dans ce sac-là. Et moi, j'ai pris le sac des casse-croûtes et je saute. Oh, et je tire et trac, la pkaïla qui sort. Ah! Tu as peur? Alors, il y a quelqu'un qui dit go. Il y a des gens, c'est au moment de la choupa, ils disent mais qui a dit que ça va réussir? Alors, il y a un autre qui vient et dit go. Au moment où tu vas signer la maison. Alors, il y a le notaire, il y a le vendeur, etc. Bon, alors, donc, vous signez. Donc, 283 000 euros. Tu dis à ta femme, tu ne vois pas qu'on reste dans le HLM? 283 000 euros. Ah, mais vous payez en plusieurs fois. Oui, mais c'est la même somme. Toujours à ta femme quand tu lui dis, enfin, chérie, c'est cher. Elle te dit, mais chérie, on peut payer en plusieurs fois. Mais c'est la même somme. Mais c'est pas grave. C'est l'illusion féminine. D'accord. Mais... Et quand tu signes, c'est marqué lu et approuvé. C'est marqué lu et approuvé. Or, quand tu te maries, c'est lu et approuvé. Quand ta femme, elle est enceinte, tu dis, oh, je regrette, je ne sais pas si. L'essai a été transformé, le ballon en est la preuve.
Le
ballon. Bon, c'est l'expression en français.
Non, mais avant.
L'essai a été transformé. Au rugby, quand on transforme l'essai.
Ah, l'essai.
Bon. Je ne peux pas tout dire en italien, c'est impossible. En plus, j'ai dépassé l'heure. Donc l'idée, c'est quoi? Je finis, voilà, je finis, comme ça, les dames, elles ne vont pas être frustrées. C'est quoi l'idée? C'est d'arriver à comprendre que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il nous propose le présent. Maintenant, c'est très difficile de vivre au présent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a plein de pertes de temps, de bêtises, de lourdeur, d'angoisse, de stress, de malaise, de névrose. Donc un homme, il doit se construire pour être bien dans sa tête. Il doit se construire pour être bien dans sa religion. Il doit se construire pour vivre sa Torah en temps réel. Moi, je rigole des gens qui me disent, si Dieu veut, blinéder, je vais étudier la Torah. Mais, Yahmar, dans le monde, tu dois étudier la Torah, connaître la Torah, intégrer la Torah et vivre la Torah pour qu'au moment où ta vie, elle vient, tu vois la Torah. Maintenant, les gens... Ils vivent une chose et 10 ans après ils disent, tu sais, ça me rappelle ce qui est écrit dans la paracha, mais Armand, le train il est parti, le train de 8h17 il est parti il y a 10 ans et toi maintenant t'as compris, t'as retrouvé la liste des horaires du train. C'est ça la Torah, alors que c'est le contraire. C'est que toi tu dois être préparé pour qu'au moment où tu vois l'événement, tu dis, ça c'est Mida Keneged Mida, ça c'est le Nisayon de Yitzhak, ça c'est la... C'est à dire que pour que ta Torah, et tu la vis en temps réel, parce que la Torah c'est un mode d'emploi pour que tu vives en temps réel. Maintenant, quand le bon Dieu il a donné la Torah, il a donné la Torah avant que le temps existe. Vous le savez, ça. Enfin, il a écrit la Torah avant que le temps existe. Donc la Torah en elle-même, elle ne contient pas le temps. Maintenant, si on fait la coupe transversale d'une vie, il y a, ça c'est la personne, il y a la Neshama, le psychique de l'homme, le corps, la nature et Dieu. Vous vous rappelez de ça, on l'a fait plusieurs fois. Ouais, je répète ou non? On fait la coupe transversale. Donc il y a la personne, donc il y a la Neshama, il y a le psychique, et il y a le corps. Après, il y a la nature qui te sépare de Dieu, et il y a Dieu. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que la Neshama et Dieu, ils sont en dehors du temps.
Ils sont
en dehors du temps. Les deux, la nature et le corps, ils font partie de la nature. Donc eux, ils sont soumis au temps. Maintenant, il reste le psychique. Maintenant, le psychique, il est dans le temps ou pas dans le temps? Ça dépend. S'il tend vers la matière, il est dans le temps. S'il est au-delà de la matière, il est en dehors du temps. Maintenant, même la nature et le corps, ils sont eux-mêmes soumis à quoi? Alors, le corps, il est soumis à l'esprit, donc il peut être en dehors du temps. Et la nature, elle est soumise à Dieu, donc elle peut être en dehors du temps. Les miracles, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si un homme, il crée le lien entre Dieu qui est en lui et Dieu qui est devant lui, il n'est plus soumis au temps. Puisque ça, c'est intemporel. C'est Dieu. La Neshama, c'est Dieu. C'est en dehors du temps. Ça, c'est en dehors du temps. Dieu lui-même, il est en dehors du temps. Qu'est-ce qui reste? La nature et le corps. Maintenant, on a dit le psychique, ça dépend de l'homme. Si l'homme, il tend...
Qu'est-ce que c'est le troisième?
Je répète. Là, ça, c'est l'homme. C'est la Neshama.
La Neshama, divine. L'âme, c'est-à-dire.
Le psychique, le moi.
Le
moi. M-O-I. Le moi.
L'io.
L'io. D'accord? Et le corps. La nature, Ateva, et Dieu. D'accord. Okay. Maintenant, nous qui sommes des croyants, nous savons que la nature, en fait, c'est l'habit de Dieu. Parce que Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, et Ateva, c'est la nature. Donc, en vérité, la nature, elle est entièrement soumise à Dieu. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est l'expression du présent de Dieu en temps réel. Maintenant, le corps de l'homme, il peut être soumis au temps aussi, ou au-delà du temps. Ça dépend, est-ce que l'homme lui-même, le moi, il est dans le temps? Donc ça, c'est en dehors du temps, ça, c'est en dehors du temps. Ça, ça peut être en dehors du temps de manière optionnelle, et ça, ça dépend de l'homme. Donc il peut être entièrement en dehors du temps. Ça va? Alors je vous dis un hidouche, et après je vous laisse tranquille. Il y avait un jeune homme, un papa, il m'a dit, est-ce que tu peux parler à mon fils? Parce qu'il est en train de s'écarter de la Torah, et j'arrive pas à trouver les mots. Alors j'ai commencé à lui expliquer la Torah, le Yetzerara, la punition, la récompense. Je voyais que ça le saoulait, il n'avait pas envie d'écouter. Alors je lui dis, tu sais quoi, tu peux écouter deux mots? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, voilà, je vais t'expliquer mon fils, c'est très simple. Tu vois, dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident.
C'est évident.
Il m'a dit, mais il est fou sur avant ou quoi? J'ai vu que ça l'a accroché. Puisqu'il m'a demandé, vous avez fumé quoi? Je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer. C'est quoi l'évident? Tout à l'heure, j'ai dit, quand les gens, tu leur poses quelque chose, les gens, ils viennent avec des problèmes, tu leur proposes des solutions. Alors les gens, toujours, ils te disent, oui, mais c'est pas évident. Il faut faire comme ça avec ton mari. Oui, ça veut dire oui, traduction, tu as raison, mais je me protège, c'est pas évident. Alors moi, toujours, je pose la question. Bon, mais je sais que c'est pas évident, parce que si c'était évident, t'aurais pas posé la question. Donc c'est pas évident. Maintenant, qu'est-ce qui est pas évident? C'est la situation qui est pas évidente, ou c'est toi qui est pas évident dans cette situation? Maintenant, la situation, elle est envoyée par Dieu, et Dieu, il est évident. Ça va? Donc le problème, c'est quoi? C'est est-ce que l'homme est évident? Donc qu'est-ce qui rend pas évident ce qui est évident? C'est l'homme. Donc quand l'homme, il dit c'est pas évident, il rend pas évident ce qui est évident. Tu veux la preuve? Regarde une preuve facile. Toi, tu as prêté 10 000 euros à quelqu'un. Je te demande, dis-moi, il va te les rendre les 10 000 euros? Je lui dis, mais c'est évident. Maintenant, toi, tu as emprunté 10 000 euros à quelqu'un. Je lui dis, dis-moi, tu vas lui rendre? Il dit, ah, tu sais, c'est pas évident. Mais la même personne, quand elle emprunte, elle dit, c'est pas évident que je vais rendre. Mais quand elle prête, elle dit, mais c'est évident qu'il va me rendre. Vous voyez, ça s'appelle ça. Ça s'appelle que d'un côté, il y a Dieu. Ça s'appelle l'instantané. Et ça s'appelle l'homme. Maintenant, normalement, l'homme et Dieu, ils doivent être instantanés. C'est ça la vie en instantané. Le problème, c'est que l'homme, pour être en instantané avec Dieu, il faut que l'homme, il soit spontané. Maintenant, quand l'homme est spontané, la vie, elle est instantanée. Mais l'homme, il n'est pas spontané. Pourquoi? Parce qu'on a dit bêtises, lourdeur, etc., remise en cause, mensonge gratuit, manque d'assurance, manque de connaissances. Donc comme l'homme, il n'est pas spontané, alors la vie, elle n'est pas instantanée. Maintenant, ça prend des années pour devenir spontané. Parce qu'on ne peut pas être naturellement instantané. Il n'y a pas des animaux pour être intuitif ou instinctif naturellement. Donc pour qu'un homme, il soit instantané, il faut qu'il devienne spontané. Ça prend des années de travail pour retrouver cette spontanéité. Quelle spontanéité? En fin de compte, la spontanéité de l'enfant. Pourquoi? Vous voyez, vous avez un bébé devant vous. C'est très, très marrant. Vous avez un bébé d'un an et demi. Vous avez fait la compote. Tout le monde a fait cette expérience. Donc, vous prenez une cuillère de compote et vous le mettez dans la bouche. Alors, il ne veut pas ouvrir la bouche. C'est normal, il est têtu. Alors, vous faites comme ça, il fait. Alors, vous faites. J'ai dit, mais il te regarde, il dit, mais t'es fou, quoi. C'est moi qui mange, c'est toi qui ouvre la bouche. Mais c'est bon. D'accord. Et vous lui mettez la compote dans la bouche. Et au moment où vous enlevez la cuillère pour la remettre dans le petit pot, à peine, vous avez fait, il fait. Tu dis, ça va 2 minutes. Il s'en fiche que tu es fatigué. Il s'en fiche que tu es acheté. Il s'en fiche que tu as le temps. Il s'en fiche que c'est le moment. Il veut la compote maintenant. Il est spontané. Quand il est spontané, toi, t'es instantané. Est-ce que tu vas réfléchir? Maintenant, il faut changer la couche, change la couche. Un bébé, tu commences pas avec lui, non? Tu commences à réfléchir. Tu dis, est-ce que vraiment tu as besoin que je change la couche maintenant? Est-ce que ça soit d'être moi? Peut-être c'est ta mère qui doit le faire. Tu changes et c'est tout. Pourquoi? Parce que la spontanéité de l'enfant, elle t'oblige à être instantané. Et bien, la spontanéité de l'homme, on appelle ça le bitachon. Elle oblige Dieu à être instantané. Maintenant, le tzaddik, il vit en temps réel. Il vit en temps réel, c'est-à-dire il vit le présent de Dieu. Maintenant, Dieu, il va à une vitesse très forte. Maintenant, l'homme qui va être vigilant, qui va être ouvert, qui va être intelligent, qui va être fin et qui va être dans le Da'at Torah, il va vivre au présent de Dieu. il mime, on voit, il suit le bon Dieu. Il y a des gens, non, ils ratent le train. Ils ratent le train, deux trains, trois trains, trains. Après, ils...
Oh. Il ne sait même plus où il est.
C'est comme si tu arrivais au métro de Sao Paulo. Tu dis, je n'arrive même pas à lire les trucs. Il y a combien de lignes? C'est quoi la direction? Tu es perdu. Mais il y en a, au lieu d'être perdu dans le métro de Sao Paulo, ils sont perdus dans le métro de leur vie. Alors cette femme, je dois rester avec elle. C'est normal, c'est la mère de mes enfants. Oui, mais au fond, je ne l'aime pas. Et ce gosse, pourquoi je... De toute façon, je ne le voulais pas. Et puis il est né. Puis je ne le supporte pas, il ressemble à sa mère. Alors, comment je le fais? Et puis ce métier, je ne l'ai jamais aimé, c'est pour faire plaisir à ma mère. Bon, maintenant qu'elle est morte, j'ai le droit de changer de métier? Ou je dois rester parce que mes enfants ont besoin de manger? Et si je le fais, je fais que ça pour bouffer. Alors quand est-ce que je vais vivre, moi? Il est perdu dans le métro de la vie. Mais le bon Dieu, peut-être toi, tu t'es trompé. Mais le bon Dieu, il ne s'est pas trompé. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si moi, quand j'arrive à la station de métro, je dis, bon, moi, je suis perdu, mais peut-être que la station, elle est perdue. Ouah, la station elle-même, elle s'est perdue. Non, la station, elle est là. Elle est bien, la station. Ouais. Et toi, t'es là. Maintenant, le bon Dieu, c'est la station. Donc, ta femme, c'est la station. Ton mari, c'est la station. Tes enfants, c'est la station. Ta parnassa, c'est la station. Maintenant, la station, elle est bonne. Maintenant, toi, si tu as choisi d'être perdu dans la station, c'est un choix qui t'appartient. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à vivre au présent de Dieu. Le bitachon, c'est quoi? C'est de dire, Dieu me l'a envoyé. L'aïmouna, c'est quoi? C'est de dire, je vais l'accepter. Après, l'aïchtadout, c'est quoi? C'est de s'efforcer d'être en accord avec la réalité qu'on te propose. Maintenant, quand ça, hier, non, ça c'est de la... hier, c'est de la nostalgie. Demain, c'est de la paresse. Alors c'est quand? C'est maintenant. Alors chaque maintenant, tu vas le vivre maintenant. Si tu vis chaque maintenant, maintenant, il n'y a plus de problème. Chaque maintenant, maintenant. Chaque présent, maintenant. Il n'y a plus de problème. Et comme la vie, c'est une série de présents, tu n'auras pas de problème. Mais si tu gaspilles un présent à cause du passé, il faut que tu payes ce que tu m'as fait hier. Si tu gaspilles un présent à cause du futur, parce que j'ai peur qu'est-ce que sera le lendemain, mais le lendemain, ça sera le lendemain de la veille. Comprenez? C'est comme en Angleterre. À cause du temps, on est tous les jours un petit peu plus vieux. Ce qui pleut tous les jours. Bon, c'est pas grave. D'accord. Vous avez un temps de réaction quand même. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que celui qui a compris que de vivre en instantané, c'est-à-dire de vivre au présent à chaque instant, avec tous les outils que ça demande, parce qu'encore une fois, on ne parle pas des blagues. Moi, je pense qu'un homme, pour être prêt à 20 ans, il faut qu'il ait 80 ans. Mais comme un homme ne peut pas avoir 80 ans à 20 ans, alors il perd du temps. Mais si quelqu'un, il étudie tôt la Torah, il développe sa Yirat Shamayim, il développe son intelligence, et il utilise chaque séquence qu'on lui a donnée, parce qu'il comprend que Dieu, il te donne toujours, dans les expériences d'avant, les outils qui seront nécessaires dans les expériences d'après, et ben, il peut vivre en temps réel. S'il vit en temps réel, il n'a pas de problème. Alors qu'Hachem, il fasse, mais sans Hachem, qu'on arrive à vivre au présent, en temps réel, et que ce soit un sroute pour nos parents, et pour nos enfants, et pour toute l'Israël. Non. Tant que vous êtes là, juste vous présenter que Hakadosh Baruch Hu, il m'a fait un grand cadeau, parce que je ne sais pas comment j'ai fait, mais on a réussi à sortir le deuxième livre. Il est énorme. Le premier, on m'a dit qu'il est bon. Celui-là, je pense qu'il est très bon. On ne l'a pas encore lu, mais moi, je l'ai lu. Il est très très bon. Alors je vous souhaite vraiment qu'on en a amené, on les a fait envoyer d'Israël directement à Milan. Et ça n'a pas mis Milan, ça a pris quelques jours. C'est beaucoup beaucoup de sujets. Le premier c'était beaucoup de l'homme par rapport à lui-même. Celui-là c'est beaucoup de l'homme par rapport à Dieu. Je pense que ça correspond à peu près à 22 ans d'études à l'Yeshiva. Alors vous n'êtes pas obligé de faire 22 ans de Yeshiva. Surtout que ça fait pousser la barbe chez les femmes. Mais je pense que vous êtes obligé de travailler sur ce cours. Et comme je dis à chaque fois, si vraiment quelqu'un il a un problème et qu'il n'a pas 20 euros pour acheter le livre, je lui offre avec plaisir. Il vient me voir, me fait un clin d'œil et ça sera avec plaisir. D'accord? Mais je ne veux pas que les livres restent ici à prendre la poussière. Et après, les gens ils viennent me dire, ah, je ne savais pas. Je dis, page 83. Il dit, c'est marqué là-bas. À bientôt, bonne continuation. Alors nous, c'est la rentrée, nous. À la rentrée, vous êtes à chef. Merci à vous, bonnes vacances, que du bien.
Facciamo la vita, facciamo la vita.